À rebondissement. Pour l'instant, l'affaire est effectivement, disons, au repos. On n'en parle plus trop. Je suis personnellement persuadé que l'affaire du Carmel d'Aujouvet, c'est une affaire dont on va parler pendant des années, ne serait-ce que parce que c'est actuellement une épée de Damoclès qui est suspendue sur le gouvernement polonais, puisque actuellement, l'Église ayant accepté le déménagement du Carmel, les carmélites en ayant accepté le principe, il est à prévoir que le jour où l'on effectuera ce déménagement, la population d'Auschwitz, les Polonais qui sont là, le supporteront plus ou moins bien, et que si ça tourne à l'émeute, ça sera une situation extrêmement embarrassante pour le gouvernement polonais, ce qui fait qu'on peut compter sur le Parti communiste pour essayer de manipuler l'affaire. Donc je pense que, en vue d'une part des enjeux dont je vais vous parler, d'autre part de cette situation particulière de la Pologne avec ce gouvernement Solidarité, on peut être sûr que c'est une affaire qui va rebondir pendant des mois et des années. Alors, je voudrais vous parler des enjeux cachés, si on peut dire, de l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Auparavant, vous rappelez quand même quelques petits points de chronologie, parce qu'on n'a pas forcément tout ça en tête, sur l'origine de cette affaire, comment tout ça s'est déclenché. Ce sont des choses qui, généralement, sont connues, mais enfin, simplement donner quelques repères avant de pouvoir parler plus profondément des enjeux cachés de cette affaire. Alors, l'affaire commence en octobre 1984. Ces 6 carmélites s'installent à Auschwitz. Je crois que maintenant, elles sont 20. Donc, c'est un petit couvent au départ, une petite fondation. Elles s'installent, vous le savez, en lisière du camp de Auschwitz I, c'est-à-dire le camp qui a été pour l'essentiel le site du martyr polonais et qui est à 3 km de Birkenau, qui est le camp qui a été pour l'essentiel le site du martyr juif et de l'extermination des juifs. Elle s'installe dans un ancien théâtre qui avait été construit avant la guerre de 14, qui est à ce moment-là en ruine, qui après la guerre avait été transformé en entrepôt à grains, puis en débarras, puis abandonné, qui donc est dans un état lamentable. Ce théâtre avait été curieusement classé par l'UNESCO dans le périmètre du camp d'Auschwitz, mais ensuite est vendu donc par le gouvernement polonais aux carmélites. Pourquoi est-ce que les carmélites s'installent à Auschwitz? Eh bien, elles s'installent à Auschwitz en réparation, et puis aussi parce que 6 millions de Polonais sont morts pendant la guerre. 6 millions, ça fait le tiers de la population polonaise. Donc pour eux, c'est le lieu même du martyr de leur peuple, et elles veulent prier là en réparation des crimes qui ont été commis. Auschwitz I est en plus en Pologne vraiment le symbole du martyr polonais, en ce sens qu'il a été conçu pour eux, pour décimer leurs élites, pour décimer leurs officiers, leurs prêtres, leurs intellectuels. C'est là qu'est mort le père Kolb qui a été canonisé. Le Carmel est d'ailleurs à côté du mur où a été de la prison où a été condamné à la mort par la faim le père Kolb. Et donc les carmélites ne pensent pas du tout quand elles s'installent que cela va déclencher un scandale. Le cardinal Macharski, qui est l'archevêque du site, l'archevêque de Cracovie, annonce ça dans son bulletin paroissial, enfin sa feuille épiscopale, et ça ne provoque aucune réaction. En mai 85, c'est-à-dire plus de 6 mois plus tard, au cours du voyage du pape au Benelux, voyage qui a été marqué par une étape un peu difficile en Hollande, où le pape a été très contesté par les milieux homosexuels, libertaires, etc., l'organisation d'aide à l'Église en détresse a l'idée de faire une collecte pour aider les carmélites, parce qu'ils ont appris que les carmélites avaient des problèmes pour la rénovation de ce bâtiment, et donc ils font une collecte avec un tract qui dit « En réparation de l'affront que vient de subir le Saint-Père, nous allons offrir un carmel » au pape pour témoigner du triomphe de la croix sur le mal. Et alors c'est cette phrase, le triomphe de la croix, qui va déclencher un scandale encore quelques mois plus tard, c'est-à-dire le 14 octobre 1985, parce que c'est la date auquel le journal Le Soir révèle l'affaire, révèle l'existence de cette collecte, de ce carmel, de ce tract. Et alors cette expression de triomphe de la croix à Auschwitz suscite une grande émotion dans la communauté juive internationale, notamment en Belgique, mais surtout en France. Alors on trouve tout de suite 3 leaders d'opinion, disons, à ce grand scandale, qui sont Théo Klein, qui est alors président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Adi Steg, qui est un professeur de médecine, qui est président de l'Alliance israélite universelle, et René Samuel Sirah, qui est le grand rabbin de France. Donc on a ces 3 personnes qui, en fait, mènent le bal, même la campagne contre le Carmel d'Auschwitz. Théo Klein, disons, c'est un petit peu le chef du lobby juif en France. Steg, avec l'Alliance israélite universelle, a des C'est une association qui a des ramifications, comme son nom l'indique, dans le monde entier, donc qui représente un petit peu la diaspora. Et Sira, qui est le grand rabbin, représente le judaïsme comme religion. Alors l'argumentation qui est développée par les juifs au cours de cette campagne, c'est qu'il s'agit d'un viol de la mémoire des juifs, d'un viol du lieu de leur martyr. On dit c'est comme si on construisait une synagogue au lieu du Saint-Sépulcre. C'est un manque de goût, c'est affreux, d'autant que c'est dans ce bâtiment qu'aurait été entreposé le cyclone B. Donc c'est le symbole du symbole de l'extermination par le gaz. Donc on a fait quelque chose d'affreux. Maintenant, je voudrais faire une première réflexion à ce stade, c'est que il a donc fallu un an pour découvrir le Carmel d'Auschwitz. Alors, c'est déjà une curiosité, parce que je suppose qu'en un an, il y a bien dû avoir des gens qui ont été en pèlerinage à Auschwitz, puisque ce symbole leur tient tellement à cœur, je suppose qu'ils y vont. Et s'ils y vont, il est curieux de penser qu'en un an, personne ne s'est aperçu qu'il y avait des bonnes sœurs à Auschwitz. Donc, première curiosité. Deuxième élément de surprise, c'est qu'il y a des religieux catholiques dans d'autres camps de concentration, et notamment à Birkenau, ce qui est encore plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, dans nos milieux, et de façon justifiée, argumenté sur le fait que les carmélites n'étaient qu'à Auschwitz I, lieu du martyr polonais, et non pas à Birkenau, lieu du martyr juif. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il y a des franciscains à Birkenau. Et le plus extraordinaire, c'est qu'on a aussi beaucoup argumenté sur l'existence d'une croix, d'un calvaire, un chemin de croix qui a été installé par les carmélites dans leur jardin, en disant que cette croix qui fait 7 mètres de haut, qui est la croix devant laquelle le pape a prié à Auschwitz en 1979, cette croix était un scandale là où elle était, qu'on la voyait de tout le camp. Il y a eu des reportages, moi j'ai jamais été à Auschwitz, mais il y a eu des reportages photographiques qui ont fait là où elle était. Cette affirmation, la croix, une croix de 7 mètres plantée par terre, ça ne peut pas se voir à des kilomètres, surtout quand il y a des bâtiments. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'à Birkenau, la croix est sur le toit du bâtiment. C'est-à-dire que c'est une croix qui est à 30 mètres de haut et qui là doit se voir de très très loin. Et comment se fait-il que la croix de Birkenau n'ait jamais suscité de scandale, que les franciscains de Birkenau, qui sont là depuis 82, je crois, n'aient jamais suscité de scandale? Je n'ai pas la réponse. Je dis simplement, cette curiosité doit nous laisser penser, nous faire réfléchir et nous laisser penser que les causes que l'on avance ne sont pas les vraies causes, qu'il y a autre chose. Ce n'est pas simplement une question de susceptibilité, ce n'est pas une question de décence, il n'y a pas simplement une faute de goût qui a été faite, il y a autre chose. Pourquoi un scandale sur les carmélites d'Auschwitz? Pourquoi a-t-il fallu un an pour s'apercevoir qu'il y ait des carmélites à Auschwitz? Et pourquoi pas de scandale pour Birkenau? Maintenant, actuellement, les autorités juives demandent le départ des franciscains de Birkenau, mais ce qui a suscité le scandale, ce sont les carmélites d'Auschwitz. Pourquoi? Donc ça sera la première partie de mon exposé. J'essaierai d'expliquer, de comprendre pourquoi, quel est l'enjeu de cette offensive juive, puisque je crois que la raison invoquée, qui est une raison de décence, de susceptibilité, de sensibilité, je crois qu'elle n'est pas sérieuse. Je continue ma chronologie, puisque là nous sommes simplement au moment où le scandale se déclenche, donc grosse émotion, gros relais dans la presse, puisque tout ce genre d'affaires trouve un grand relais dans la presse, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, puisqu'elles sont... Elle suscite elle-même des scandales. En février 1986, se compose, de façon étrange, mais nous y reviendrons, une commission mixte judéo-chrétienne. Pour la partie juive, le cardinal pour la partie catholique, le cardinal Lustiger, le cardinal de Courtrai, le cardinal Danels, qui est l'archevêque de Bruxelles, et le cardinal Macharski, donc quatre cardinaux, avec quelques assistants ecclésiastiques de moindre calibre. Et pour la partie juive, eh bien, les trois interlocuteurs qui ont lancé l'affaire, Sira, Steg, Klein. Qui les a habilités? Eh bien, c'est un mystère. C'est un mystère que nous éclaircirons tout à l'heure. Mais enfin, sur le moment, c'est un mystère. Personne ne parle de ça. Personne ne sait qui a habilité ces gens-là. Ça ne se dit pas. Cette commission est autoproclamée. Et le cardinal de Courtrai devient coprésident pour la partie catholique et monsieur Klein devient coprésident pour la partie juive. Curiosité, il n'y a pas le primat de Pologne, monseigneur Klein, puis il n'y a pas le supérieur des Carmes, il n'y a pas le provincial des Carmes, il n'y a pas la supérieure des Carmélites, la mère supérieure, tous ces gens-là ne sont pas dans cette commission, ce sont des étrangetés. Et puis il n'y a pas de juifs polonais, il n'y a que les juifs français qui sont représentés, ou les juifs de la diaspora internationale à travers M. Steg, mais les juifs polonais, qui sont quand même les premiers, qui devraient être choqués, qui devraient réagir devant cette profanation, ne sont pas représentés. Alors cette commission tient sa première réunion à Genève le 22 juillet 1986, et elle arrive sur une position de principe. Elle n'arrive pas à dégager de solution pratique pour le départ des carmélites, mais elle s'accorde sur un texte théorique. Et ce texte est en fait un texte qui déjà abandonne tout à la partie juive. C'est-à-dire qu'une fois que ce texte est accepté par les cardinaux, on voit mal le combat pour les carmélites, pour le maintien des carmélites, devient un combat d'arrière-garde. Alors ce texte de principe, la phrase essentielle est celle-ci. Auschwitz et Birkenau sont reconnus comme les lieux symboliques de la solution finale, au nom desquels les nazis ont procédé à l'extermination de 6 millions de juifs seulement parce qu'ils étaient juifs. Parce que, vous voyez, il y a deux choses très importantes dans ce texte. D'une part, on dit qu'il s'agit de déterminer le lieu symbolique de la solution finale. La notion de lieu symbolique est une notion qui est curieuse. Je veux dire, on pourrait demander quel est le lieu historique de la solution finale, le lieu géographique. Mais non, on cherche un lieu symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on va faire en sorte que Auschwitz, qui n'est pas le lieu historique, devienne le lieu symbolique associé à Birkenau. C'est-à-dire qu'on veut parer à l'argument selon lequel Auschwitz est le lieu du martyr polonais et pas celui du martyr juif, en faisant un lieu symbolique du martyr juif. Bien sûr, ce n'est pas là que les juifs ont été exterminés principalement, mais c'est le lieu symbolique parce que c'est le nom qui est resté dans la mémoire collective. Auschwitz, c'est l'extermination des juifs. Et ce qui est justifié dans la mesure où Birkenau est sur la commune d'Auschwitz, mais le camp d'Auschwitz 1 s'appelant Auschwitz, eh bien, on doit le considérer comme le camp du martyr juif, même si ce n'est pas là que le martyr juif a eu lieu. Et la deuxième chose importante, c'est que l'on précise l'extermination de 6 millions de juifs seulement parce qu'ils étaient juifs. C'est aussi une façon de distinguer les juifs qui sont morts en camp de concentration seulement parce qu'ils étaient juifs des autres qui sont morts pour d'autres raisons moins intéressantes. Donc on reconnaît que Auschwitz 1 est un site juif. La deuxième rencontre a lieu à Genève un petit peu plus de 6 mois plus tard, le 22 février 1987, dans une ambiance un petit peu d'ultimatum, puisque Klein a annoncé que ça serait la dernière rencontre, où on trouverait une solution cette fois-ci, où il n'y aurait pas de troisième rencontre, avec comme d'habitude une forte mobilisation des médias, évidemment contre l'Église. Donc la partie catholique est un petit peu le dos au mur. Et elle abandonne, puisque cette réunion se conclut sur un accord pour le déménagement du Carmel dans les 2 ans, et la construction, un petit peu plus loin, quelques centaines de mètres, d'un centre judéo-chrétien. Enfin, c'est un centre d'études sur la Shoah. On ne sait pas bien si c'est un centre chrétien sur les Juifs ou un centre judéo-chrétien sur le dialogue judéo-chrétien. Ça n'est pas très très bien défini. Alors, ce qu'il faut remarquer sur cet accord, c'est que tous les gens qui connaissent un petit peu la Pologne disent que le délai est impossible à respecter, puisqu'en Pologne, il faut en moyenne 8 ans pour construire une église. Alors là, on leur donne 2 ans. Et c'est pour ça que cet accord ne sera pas respecté principalement, parce qu'il faut il y a toute une procédure pour le déménagement du Carmel. Comme c'est la création d'un nouveau site religieux, il faut l'accord du gouvernement. Alors, le gouvernement met d'abord quelques mois, parce que c'est la bureaucratie communiste, ça prend du temps, mais quelques mois à donner son accord. Ensuite, il faut que le plan d'urbanisme soit approuvé par la municipalité. Ensuite, il faut acheter les terres. Alors, les propriétaires des terres, qui sont des malins, font monter les prix. Il y a 14 propriétaires pour le terrain qui est décidé. Et donc, tout ça tourne un peu à la querelle de bornage, ça dure pendant des mois, et ce n'est finalement qu'en juin 89 qu'on arrivera à avoir un accord pour l'achat des terres. Donc, essentiellement, de la part de l'Église polonaise, enfin, en tout cas du cardinal Macharski, tout ça bute sur des problèmes pratiques. Je ne crois pas qu'il y ait d'opposition réelle, d'opposition de principe. Il a signé, mais 2 ans, ce n'est pas possible. Bon, il faut reconnaître aussi que sur le terrain, les Polonais ne se sentent pas très concernés par cet accord, dans la mesure où le provincial, qui était lui contre le déménagement des carmélites, n'a pas été associé. Il dira que cet accord est un diktat, que les religieuses qui n'ont pas été associées se demandent bien pourquoi est-ce qu'on a négocié sur leur dos. Or, il se trouve que ces religieuses, leur couvent a reçu un statut définitif, enfin a été approuvé par le Vatican en 1985. Alors, il y a un problème juridique complexe pour savoir si elles relèvent pour un déménagement. Est-ce que ça relève du Vatican directement? Est-ce que ça relève de l'évêque? Certains disent que ça relève de l'évêque, d'autres disent que ça relève du Vatican. Les problèmes des congrégations religieuses, on dit que c'est une des 3 choses que le bon Dieu ne sait pas. Alors, c'est très difficile de déterminer finalement qui est responsable de ça. Donc, toutes sortes de petits problèmes. Et qui provoque ce retard. Mais je retiens de tous ces événements qu'il y a donc eu une procédure étrange. La chose qui est à retenir à long terme, c'est la constitution de cette commission, de façon tout à fait en dehors des règles du droit de l'Église, de façon spontanée, comment ces gens se sont autoproclamés. Il y a une procédure étrange. Et ça sera la deuxième partie de mon exposé. je crois pouvoir dire qu'il y a eu complot. Bon, il ne s'agit pas de ressortir les archétypes du complot judéo-maçonnique, etc. Mais je crois que vraiment, dans cette affaire, on peut dire qu'il y a eu complot, il y a eu une façon délibérée de s'affranchir des règles normales de la procédure pour arriver à donner les apparences d'une négociation à un accord qui était fait à l'avance, et qui n'était pas un accord, qui avait été fait par l'une des parties. Je reprends ma chronologie. En janvier 1989, il faut bien s'apercevoir qu'on n'a même pas acheté les terres, qu'on n'a pas posé la première pierre, et que le délai qui avait été fixé à 2 ans vient à échéance dans 1 mois. Alors de Courtrai s'agite un petit peu, écrit aux religieuses, écrit au supérieur des Carmes. Le supérieur des Carmes finit par dire « Bon, si vous pensez que vous avez négocié au nom de l'Église, je suis bien obligé de vous donner mon accord. » Donc les religieuses déménageront. Les religieuses disent « Bon, si vraiment ça fait plaisir au pape, on va peut-être déménager. » Et de Courtrai écrit aux Juifs, à Klein, je crois, oui, à Théo Klein, en lui disant « Bon, écoutez, elles se sont engagées à partir. Maintenant, on a des problèmes. Donnez-nous 6 mois. » Ce qui est grotesque, parce que 6 mois, ça ne résout pas plus le problème. Mais enfin, il négocie le dos au mur. Et il obtient un délai de 6 mois qui amène en juillet. Puis en juillet, évidemment, rien n'est réglé. Simplement, entre-temps, on est arrivé à avoir un accord sur l'achat des terrains. Mais enfin, on est loin de la construction d'un monastère. Et évidemment, la communauté juive s'exaspère, a le sentiment d'avoir été trompée, et les éléments les plus extrémistes manifestent. Et ces éléments extrémistes, le 23 mai, l'Union des femmes sionistes vient manifester devant le Carmel, le 14 juillet, c'est un rabbin américain, le 23 juillet, c'est des juifs belges, enfin, apparemment, la première année de l'installation des carmélites, personne n'était venu, puisque personne ne les avait vus, mais cette année-là, on vient tous les 8 jours. Et donc, tout ça provoque une certaine exaspération polonaise. J'ai là un article de Libération qui est assez extraordinaire, qui raconte l'affaire du 14 juillet, qui s'appelle « Violence anti-juive au Carmel d'Auschwitz ». Alors, je vous le lis parce que c'est quand même intéressant. « Scène de honte à Auschwitz. Vendredi, un groupe de 7 juifs américains a été brutalisé par la foule au moment où ils exigeaient le départ des sœurs qui, depuis près de 5 ans, ont installé le Carmel dans un ancien bâtiment du camp de la mort. Bon. » Les 7 protestataires, conduits par un rabbin de New York, Abraham Weiss, se sont présentés à la porte du Carmel à 10h du matin pour demander aux 20 carmélites de quitter le plus grand cimetière juif du monde, conformément aux accords signés à Genève entre eux, etc., les uns et les autres. Alors que les carmélites refusaient d'ouvrir la porte du couvent, les manifestants ont pénétré dans les jardins du Carmel brandissant une pancarte en polonais « Sœurs, ne priez pas pour les martyrs juifs, ils n'étaient pas chrétiens ». Puis, couverts de châles de prière, ils ont entonné des chants alors que le rabbin frappait des coups sur la porte en bois du bâtiment pour tenter d'entrer en contact avec les religieuses. Voilà, c'est très très bien écrit, c'est bien raconté. S'adressant à un petit groupe de journalistes et à une foule d'habitants d'Auschwitz qui s'étaient groupés devant le Carmel, le rabbin a lu une déclaration fustigeant l'attitude du Saint-Siège qui avait autorisé en octobre 1984 l'installation du couvent. Alors vous imaginez que les paysans polonais, de tradition pas particulièrement philosémite, qui assistent à ce genre de scène, sont dans un état de rage second. Ce qui fait que l'on lit la suite. Un groupe d'ouvriers employés au premier étage de la rénovation du Carmel ont alors commencé à les injurier, versant sur leur tête par les fenêtres du bâtiment des seaux d'eau mélangés de ciment. Puis sont descendus pour les déloger. Un petit groupe de policiers est intervenu au dernier moment alors que les manifestants étaient sérieusement malmenés. Les violences ont repris quelques heures plus tard, alors que la foule des habitants d'Auschwitz, de plus en plus dense, observait silencieusement les manifestants. Un jeune prêtre, dépêché par la paroisse, a rejoint les badauds pour les inciter à intervenir. Cette fois, les policiers n'ont pas bougé et la foule, conduite par le jeune curé, est passée à l'action. Dans la bousculade, les 7 manifestants ont été chassés de l'enceinte du couvent sous les injures et les coups de poing. Donc voilà l'ambiance générale qui, en Pologne, donc, n'est pas très très favorable au déplacement. D'autant que, évidemment, les communistes, le mouvement Pax, donc, qui est catholico-communiste, met plutôt de l'huile sur le feu en soutenant les carmélites, les bons apôtres, parce qu'ils se disent que c'est encore un dossier que Solidarité va avoir sur les bras. Au moment où ils font la quête dans le monde entier en disant « donnez-nous de l'argent », se mettre la communauté juive internationale sur les bras avec une réputation d'antisémite, ça n'est pas très bon pour un nouveau gouvernement. Donc, voilà l'ambiance. Et le 22 juin, à la suite de ces incidents, Théo Klein annonce le gel des relations judéo-chrétiennes. Le 10 août, le cardinal Macharski en tire les conclusions. Puisqu'il n'y a plus de relations judéo-chrétiennes, il dit « on ne va pas se construire de centre judéo-chrétien ». Il y a une certaine logique dans son attitude. Et donc, il décide de suspendre la construction du centre dans lequel devait s'insérer le Carmel. Alors bon, la suite, vous la connaissez, c'est le 26 août, le cardinal Glem, qui lui, alors, met les pieds dans le plat lors du pèlerinage de Częstochowa, en parlant du peuple juif qui se comporte de façon à violer la souveraineté nationale et à qui on aimerait dire de rester un petit peu plus calme. Et puis surtout le 2 septembre, qui dit qu'il n'est pas question de respecter ces accords de Genève, ils ont été négociés par des gens qui n'ont aucune compétence, le Carmel ne bougera pas. Et tout ça provoque l'énorme campagne que vous avez en mémoire, l'antisémitisme de l'Église, etc. Et ça débouche sur la capitulation du Vatican le 21 septembre, puisque ça débouche sur un communiqué du cardinal Wilbrandt disant que les accords doivent être respectés et donnant un petit peu d'argent, disant que puisqu'on aura l'Église polonaise la difficulté pour construire ce centre, ben on donnera un petit peu d'argent. Donc ça sera la troisième partie de mon exposé, c'est d'essayer de comprendre un petit peu cette attitude de l'Église qui paraît partir un petit peu dans tous les sens, Glem d'un côté, Macharski d'un autre, le Vatican d'un troisième, cette délégation, etc. Donc je vais reprendre mes trois points en commençant donc par l'enjeu de l'offensive juive. Cet enjeu, je voudrais vraiment, je pense qu'il y a des gens de bonne foi qui pensent que sincèrement, tout a démarré avec un manque de délicatesse de la part de l'Église. Et il y a un document qui me paraît intéressant, qui est paru dans le Figaro le 30 octobre dernier, c'est récent, c'est une interview de Marek Alter. Et Marek Alter dit, l'enceinte, en parlant d'Auschwitz et du Carmel, etc., il dit, il est temps de parler aussi de la banalisation d'Auschwitz qui se poursuit par ailleurs. L'enceinte du camp d'extermination est devenue une sorte de Disneyland, avec navettes pour touristes, buvettes, restaurants. Il y a des petits musées nationaux, la France a le sien, la Belgique également, et même la RDA. Donc ça encore, c'est une chose qui vient, disons, contre l'idée que les carmélites ont vraiment fait une faute de goût, puisqu'apparemment, il y a des buvettes, il y a des navettes pour touristes, il y a des marchands de frites. Ça n'a jamais gêné personne. Je comprends que ça choque les gens qu'il y ait des marchands de frites. Mais c'est peut-être un petit peu tard pour s'en rendre compte. C'est seulement quand les bonnes sœurs arrivent qu'on se rend compte que c'est gênant qu'il y ait du monde à Auschwitz. Donc, il y a autre chose. Alors c'est à ça que je vais essayer de m'attacher, savoir quels sont les vrais enjeux de cette offensive juive, pourquoi est-ce que tout à coup la communauté juive s'est mobilisée contre les carmélites. Je pense qu'il y a deux aspects, l'un politique, l'autre religieux. Parlons d'abord du premier aspect, qui est donc l'aspect politique. Je crois que l'enjeu est, pour une partie de la communauté juive, bien entendu, quand on parle de ces questions, on généralise de façon excessive, il ne s'agit pas de tous les juifs, il ne s'agit pas de toute la communauté juive, mais disons, pour une certaine internationale juive, une certaine partie de la diaspora, il s'agit de maintenir l'humiliation de l'Europe chrétienne, et pour des motifs politiques. Le premier, c'est de préserver la dette des nations européennes à l'égard des juifs. Cette dette, elle est fondée dans l'esprit public, dans la conscience collective, sur le caractère absolument incomparable de la persécution dont les juifs ont fait l'objet pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'idée est que il y a eu de tout temps des massacres, l'histoire du monde est une suite de massacres, de guerres, de choses horribles, d'actes de barbarie, mais l'idée est de défendre le point de vue selon lequel on n'avait jamais fait ça, on n'avait jamais rien fait de tel. C'est quelque chose qui est absolument sans précédent. Et donc l'Europe a démontré dans cette affaire, à l'égard du peuple juif, une barbarie comme on n'en avait jamais vu. Et je crois qu'il y a beaucoup de campagnes qui, ces dernières années, ont répondu à ce même objectif. Je vais vous citer trois exemples. Premier exemple, une campagne sur le terme « génocide ». Quand l'historien Reynald Séché a employé le terme génocide pour la Vendée, ça a suscité un scandale. Il y a eu un numéro spécial d'une revue juive, qui s'appelle Passage, pour réfuter cela, pour dire en Vendée, on ne peut pas parler de génocide. Quand on parle de génocide arménien, ça suscite aussi des contestations. Pourquoi ? Parce que le génocide, c'est seulement le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une chose qui n'avait jamais été faite avant, qui n'a jamais été vue. Deuxième exemple, au cours du procès Barbie, il y a eu toute une polémique menée par Serge Klarsfeld sur le thème il ne faut pas appliquer la notion de crime contre l'humanité aux résistants. Pourquoi ? Parce que le crime contre l'humanité, c'est spécifique aux Juifs. Ce qui fait que Klarsfeld défendait le point de vue, qui n'a finalement pas été retenu, selon lequel, sur un train de déportation qui avait fait partir Barbie, il fallait compter 362 crimes contre l'humanité pour les 362 Juifs et 572 crimes de guerre pour les résistants. La différence était qu'on pouvait poursuivre pour les 362 crimes contre l'humanité, alors que les autres, le crime de guerre était prescrit. seuls les crimes contre l'humanité étant imprescriptibles. Donc je pense que la notion même d'ailleurs de crime contre l'humanité imprescriptible et le fait de vouloir réserver cette notion aux juifs, ça participe de la même mentalité. Il y a là un fait absolument nouveau, absolument sans précédent, la persécution des juifs, qui doit donc être régi par un droit absolument nouveau, absolument sans précédent, qui ne connaît pas le pardon, qui ne connaît pas la rémission, et qui doit être réservé aux juifs. Troisième exemple, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais c'est la fameuse campagne sur le point de détail, est-ce que les chambres à gaz, l'utilisation des chambres à gaz pour le génocide juif est un point de détail ou n'est pas un point de détail de la Seconde Guerre mondiale. Bon, l'expression est sans doute malheureuse, mais le fait que l'on ait utilisé contre Jean-Marie Le Pen l'utilisation de ce terme point de détail, non pas sur le génocide, je veux dire, il faut revoir le texte de Le Pen n'est pas le génocide, la persécution des juifs est un point de détail. Il est l'utilisation des chambres à gaz ou d'un autre moyen pour persécuter les juifs, pour tuer les juifs, est un point de détail. Pourquoi est-ce que cette affirmation, qui est en soi n'a rien qui est peut-être maladroite, mais qui n'est pas scandaleuse en soi, pourquoi est-ce que cette affirmation a fait scandale? Mais parce que là encore, la chambre à gaz, c'est le truc qu'on n'avait jamais vu. C'est la méthode sans précédent. Donc ce n'est pas un détail que la méthode ait été sans précédent, parce que la barbarie a aussi été sans précédent. Alors quel est l'intérêt de vouloir préserver ce caractère incomparable de la persécution des juifs? Eh bien, c'est aussi de fonder une dette incomparable de l'ensemble de l'Europe et des nations qui ont été le théâtre de cette persécution à l'égard du peuple qui en a fait l'objet. C'est pour ça qu'on doit tolérer en France la puissance du lobby juif sans en parler. Aux États-Unis, on parle du lobby juif. En France, on ne parle jamais du lobby juif. À la limite, c'est réprimé par la loi. L'interdiction du nationalisme, l'exaltation constante du cosmopolitisme, toute déclaration nationaliste étant assimilée au nazisme, au terreau du nazisme, à une dérive possible vers le nazisme et la persécution des juifs, tout ça est fondé sur cette dette, et cette dette est fondée sur la préservation du caractère incomparable de la persécution des juifs. Alors le Carmel là-dedans, eh bien le Carmel est une fausse note dans cette présentation de l'histoire, parce que justement le Carmel se propose de perpétuer le souvenir du martyr polonais, se propose de perpétuer le souvenir du martyr du père Kolb. Et donc de dire, la Seconde Guerre mondiale a fait toutes sortes de victimes, c'est bien malheureux, parmi elles les Polonais ont perdu justement 6 millions de morts, disent les Polonais, chiffre aggravant. La croix dont on parle, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a fait campagne contre les carmélites d'Auschwitz plutôt que contre les franciscains de Birkenau, parce que les franciscains de Birkenau, ils sont là, à la limite, pour expier les morts juifs. Ce qu'on ne pardonne pas, entre autres, aux carmélites d'Auschwitz, c'est de venir expier les morts polonais, c'est de rappeler qu'il y a eu des morts polonais. Et la fameuse croix que l'on dit gêner la vue des pèlerins et être un blasphème de planter une croix à cet endroit-là, elle a été plantée à l'endroit où ont été fusillés 600 officiers polonais. Donc là encore, tout le dispositif du Carmel est fait pour rappeler le martyr polonais. Or, on n'a plus le droit, dans la mentalité de cette partie de la communauté juive, de rappeler le martyr polonais. C'est d'ailleurs ce que dit en quelque sorte Théo Klein dans une lettre qu'il a écrite le 20 mars 1986 au nonce apostolique en France, qui était à l'époque Monseigneur Felici. Il lui dit « D'autres, nous le savons, ont souffert, ont été meurtris, assassinés par le nazisme, mais c'est le martyr incommensurable des Juifs qui a marqué ce lieu du signe de l'indicible souffrance d'hommes, de femmes, d'enfants abandonnés par l'humanité à la technologie de la mort industrielle. » Donc, c'est le fond de l'affaire, c'est qu'il faut maintenir l'idée selon laquelle la persécution des Juifs ne peut pas être comparée avec les autres morts de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est le premier aspect politique. Mais dans même l'enjeu politique, il y a un autre aspect qui est politico-religieux, si l'on veut, mais qui nous intéresse particulièrement ici, à l'Institut Saint-Pédis, qui est de contester toute légitimité à l'idéal de chrétienté, à la royauté sociale du Christ. Parce que une chose est frappante, c'est que toute cette affaire du Carmel d'Auschwitz a ranimé une vieille querelle qui date de l'après-guerre sur Pie XII, sur le silence de Pie XII. J'ai ramené là, c'est extraordinaire, voilà un article du Nouvel Obs de septembre 89, « Holocauste, le Vatican savait ». Ce sont des affaires qui ont été traitées, retraitées dans l'après-guerre, le rôle de Pie XII, son silence, etc. Eh bien, on ressort ça à ce moment-là. On a fait d'ailleurs cet automne beaucoup de campagnes autour du silence de Jean-Paul II sur le Carmel d'Auschwitz. Je crois que le but de cette campagne sur le silence de Jean-Paul II était d'une part de faire parler Jean-Paul II et de le faire parler dans le bon sens, mais était aussi dans l'inconscient d'enraciner l'idée du silence du pape, le pape qui, chaque fois que les juifs souffrent, se tait, ne parle pas, etc. Alors, cette légende, nous devons savoir qu'elle est infondée, puisque Golda Meir a témoigné sa reconnaissance à Pie XII dans des termes exceptionnels, disant que nul n'avait fait plus que lui. Pie XII a son arbre en Israël dans la vallée des Justes, et alors le plus extraordinaire, c'est le rabbin de Rome de l'époque qui s'est converti au christianisme. Je suppose que s'il avait considéré Pie XII comme un affreux nazi, il aurait hésité. Mais bon, tout ça a été lancé après-guerre par deux livres. D'une part, la pièce « Le vicaire » de Rolf Hochschult, et puis d'autre part, le livre « Pie XII et le Troisième Reich » qui a accrédité cette légende. Et tout cela est sans cesse relancé. Je pense que toutes les campagnes que l'on voit autour de Vichy, toute la volonté d'incriminer l'État français, d'en faire le complice volontaire de la persécution des Juifs, c'est aussi parce qu'on a l'idée que Vichy, c'est un petit peu l'État chrétien, soutenu par les évêques, etc. Et donc d'impliquer l'Église dans la complicité du nazisme et du génocide. Je crois que l'affaire Touvier est à cet égard exemplaire. C'est-à-dire que c'est un amalgame merveilleux. Touvier égale milice, milice égale nazi, Touvier est soutenu par les intégristes et puis aussi par les évêques. Hein, parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes visés, c'est toute l'Église. Donc je crois qu'il y a la volonté de mouiller l'Église, de faire que toute l'Europe chrétienne, et que la chrétienté elle-même, a été complice du nazisme. Et j'en veux la preuve encore, cette lettre de Théoclin au nonce apostolique, parce que voilà la suite de sa lettre. Il écrit « Rien ne peut effacer le fait que c'est eux, les Juifs, qui sont morts là-bas parce qu'ils étaient juifs et parce qu'ils l'étaient, dans l'indifférence des gouvernements et des hiérarchies religieuses. Aujourd'hui, ils ont droit à ce silence dont ils ont profondément souffert, alors qu'un cri pouvait peut-être les sauver, sûrement leur faire sentir que dans leur marche inexorable et hallucinante vers la mort, ils n'étaient pas seuls, que quelqu'un se souciait d'eux. » Donc c'est vraiment le rappel de la responsabilité de Pie XII qui, par son silence, a été complice. Et il continue, et ça c'est extraordinaire, « Il est trop tard, Excellence, pour le repentir sur les lieux du crime. » Alors c'est vraiment dire que Pie XII est lui-même le criminel. Donc, pourquoi est-ce que quel est le fond de cette campagne? Est-ce que c'est simplement de l'acrimonie à l'égard de l'Église? Ben, je le pensais jusqu'à ce que j'ai lu cet article de Jean Daniel, donc, qui est le grand pontife du Nouvel Observateur, et qui justement, à l'occasion de l'affaire Touvier, écrit le 1er juin 1989 ceci. « Pour que la Révolution fût vraiment terminée, il ne fallait pas seulement que tous devinssent républicains. Il fallait que l'Église catholique se transformât profondément dans certains de ses rites et dans toutes ses nostalgies. Il fallait qu'après s'être laissée arracher son pouvoir temporel, elle cessât d'être la référence, la caution, le soutien d'une seule France. Or, c'est arrivé. Et figurez-vous, c'est considérable. L'un des vrais effets de cette transformation, ce fut le retour aux sources juives du christianisme, la réhabilitation d'une civilisation judéo-chrétienne inséparable de la démocratie. La transformation des rapports entre l'interprétation du message christique et la mémoire juive, c'est arrivé. Cela n'a pas plu à tout le monde. Une partie des catholiques n'a accepté la révolution du sommet que parce qu'ils étaient écrasés par les souvenirs de l'occupation. » Alors voilà ce que nous dit Jean Daniel. Jean Daniel nous dit, pour que la révolution française soit terminée, il ne suffisait pas de la République, il fallait que l'Église catholique se laisse arracher son pouvoir temporel. Il fallait que la République se convertisse, que l'Église catholique se convertisse à la démocratie, il fallait qu'elle se convertisse à la liberté religieuse. Hein. Il fallait qu'elle se souvînt qu'elle a pu susciter des lamennais, des lacordaires, il fallait que l'aventure pétainiste fût le champ du signe de son engagement politique. Il fallait donc le décret sur la liberté religieuse. Voilà ce qu'il nous dit. Or, c'est arrivé. Il a raison, c'est Vatican II. Or, cela n'a pas plu à tout le monde. Une partie des catholiques n'a accepté la révolution du sommet que parce qu'ils étaient écrasés par les souvenirs de l'occupation. Donc, ce rappel constant et cette calomnie constante sur la responsabilité de la chrétienté dans les malheurs des Juifs pendant la guerre a pour but d'intimider les chrétiens qui pourraient être réticents devant le fait que l'Église abdique sa vocation temporelle. C'est-à-dire qu'elle abdique toute volonté de proposer le règne social du Christ. Et je crois que cet aveu est considérable. Et en plus, bon, il y revient en disant qu'il faut se méfier. Là, le reste de l'article est aussi très intéressant. Le reste de l'article est très intéressant parce qu'il revient sur l'idée que, au fond, les Juifs se trompent en faisant de l'anticléricalisme tous azimuts, et notamment en s'en prenant à Mgr Lustiger ou à Mgr Ducourtray, puisqu'il dit qu'ils sont irréprochables et que c'est grâce à eux que ce sont des auxiliaires pour imposer cette révolution qui a consisté en, qui a été la liberté religieuse, et que donc il faut aider ces évêques à imposer au peuple chrétien qui pourrait être réticent devant cette mutation l'innovation conciliaire. Alors que vient faire le Carmel là-dedans? Ben, le Carmel, encore une fois, place les chrétiens, place la croix du côté des victimes. Donc il trouble cette image, donc il trouve cette légende noire selon laquelle la chrétienté est du côté des bourreaux, légende qui est entretenue sans cesse. On vous dit que les bourreaux avaient Got Me Tone sur leur ceinturon, donc c'était des chrétiens, donc c'est la chrétienté qui est coupable. Eh bien, le Carmel d'Auschwitz, c'est la croix dans le camp des victimes. Et c'est ça, je pense, qui est insupportable dans cette perspective de négation de la royauté sociale du Christ. Le deuxième aspect de l'offensive juive contre le Carmel d'Auschwitz est plus particulièrement religieux. Et je crois que l'objectif à long terme, là c'est probablement ce qu'il y a de plus grave dans toute cette affaire, l'objectif à long terme, c'est la consécration de la messianité du peuple juif. Alors, cela suppose une étape préalable qui est l'abandon par l'Église de ce que l'on appelle la théologie de la substitution, c'est-à-dire de sa théologie traditionnelle vis-à-vis de l'Ancien Testament. Quelle est la doctrine de l'Église vis-à-vis d'Israël et des Juifs? Bien, la doctrine traditionnelle est que l'Église distingue d'une part l'Israël de l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance, qu'elle honore, mais dont elle estime être le seul héritier. Elle honore Abraham, Jacob, mais elle estime qu'elle est l'unique héritière de cette tradition, elle est le vrai Israël. Deuxièmement, l'Église rejette les persécutions antisémites. Je crois qu'on a relevé 291 textes pontificaux condamnant les persécutions contre les Juifs. Mais troisièmement, elle les appelle à la conversion. Et elle interprète la phrase de saint Paul, « Les dons de Dieu sont sans repentance », comme voulant dire que la « malédiction » entre guillemets qui pèse sur le peuple juif, chaque Juif peut s'en sortir en se convertissant. Qu'il n'y a pas de malédiction sur le peuple, il y a malédiction sur le refus du Messie. Et donc le troisième aspect de la doctrine traditionnelle de l'Église, c'est la condamnation du judaïsme contemporain. C'est-à-dire que l'Église estime que le judaïsme d'aujourd'hui, le judaïsme du rabbin Syrah, est peut-être très honorable, mais c'est une religion qui est fondée sur le refus du Messie, et que donc on ne peut pas considérer ce judaïsme comme l'héritier légitime de l'Ancien Testament. Alors cette doctrine, elle est parfaitement résumée par, d'une part par saint Bernard. Voilà ce qu'écrit saint Bernard. Les Juifs ne doivent pas être persécutés, on ne doit pas les sacrifier ou les chasser comme des bêtes sauvages. Ils sont, c'est certain, les signes vivants qui nous rappellent la passion du Sauveur. En outre, ils ont été dispersés par tout le monde pour que, tandis qu'ils paient la faute d'un si grand crime, ils puissent être témoins de notre rédemption. Et ailleurs, il écrit « L'Église ne triomphe-t-elle pas chaque jour sur les Juifs d'une manière plus noble, en leur faisant voir leurs erreurs ou en les convertissant qu'en les tuant ? Ce n'est pas en vain que l'Église universelle a établi par le monde la récitation de la prière pour les Juifs, obstinément incrédules, pour que Dieu lève le voile qui couvre leur cœur et les amène de leur obscurité à la lumière de la vérité, car si elle n'espérait pas que ceux qui ne croient pas puissent croire, il paraîtrait stupide et sans propos de prier pour eux. » Donc, les Juifs ne doivent pas être persécutés, mais ils doivent être convertis. Pourquoi doivent-ils être convertis? Parce qu'ils sont dans l'erreur. Leur religion actuelle n'est qu'une religion fondée sur le refus du Messie. Ce point de vue est développé par Pascal. « C'est une chose étonnante et digne d'une étrange attention, écrit-il, de voir ce peuple juif subsister depuis tant d'années et de le voir toujours misérable, étant nécessaire pour la preuve de Jésus-Christ et qu'il subsiste pour le prouver et qu'il soit misérable puisqu'ils l'ont crucifié. Et quoi qu'il soit contraire d'être misérable et de subsister, il subsiste néanmoins toujours malgré sa misère. C'est visiblement un peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie. Il porte les livres et les aime et ne les entend point. Et tout cela est prédit, que le jugement de Dieu leur sont confiés, mais comme un livre scellé. » Donc voilà la doctrine traditionnelle de l'Église, qui en fait relèverait aujourd'hui des tribunaux si elle était exprimée comme les exprime Pascal ou saint Bernard. C'est que les Juifs ne comprennent rien à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été fait pour annoncer le Messie, dans la mesure où ils n'ont pas reconnu le Messie quand il est venu, ils n'y comprennent rien et ils le transportent comme des lettres mortes. Alors cet enseignement a été fortement contesté après-guerre, notamment à l'initiative du co-auteur du Malais Isaac, Jules Isaac, qui était arrivé à avoir l'amitié de Jean-Paul II, de Jean XXIII et d'une série d'évêques, et qui a expliqué que cet enseignement était un enseignement du mépris et avait été le terreau du nazisme, que l'Europe avait toléré le nazisme en son sein parce qu'elle avait l'habitude de penser que les juifs étaient infidèles aux promesses de Dieu et que donc un infidèle peut être persécuté. Et la grande idée de Isaac est qu'il fallait extirper de la religion catholique comme un virus dangereux l'idée de déicide, l'idée que les juifs contemporains, en continuant de refuser le Messie, s'associer aux juifs du temps de Jésus qui avaient demandé sa condamnation, et que donc tous étaient d'une certaine façon surnaturels, co-responsables de la mort du Christ, et qu'ils le payaient, comme le dit saint Bernard, par leur dispersion, comme le dit Pascal, par leur dispersion de par le monde, et par toutes sortes de malheurs qui leur arrivent. Perspective qui devenait insupportable aux juifs après la Deuxième Guerre mondiale, parce que, dans une certaine mesure, elle permettait d'interpréter la persécution des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale comme une partie de ce châtiment divin et donc comme relevant de leur propre responsabilité, c'est-à-dire que en refusant de reconnaître le Christ comme le Messie des Écritures, mais ils s'étaient mis dans la situation d'être persécutés, donc ils étaient co-responsables, donc cette perspective leur était insupportable. Et c'est Jules Isaac qui est arrivé à obtenir de Jean 23 qu'il supprime la prière pour les juifs perfides. Alors, c'était juif perfide, ça veut dire juif qui ne reconnaît pas la foi. C'était pas perfide au sens de la traduction. Voilà, transgresseur de la foi. La traduction par perfide est abusive. Ça n'avait rien de... c'était péjoratif, bien sûr, c'est péjoratif, mais enfin, ça n'avait pas le côté extrêmement péjoratif qu'a le mot perfide. Donc ça a été supprimé de la liturgie du Vendredi Saint. Et puis surtout, le grand tournant, c'est la déclaration Nostra Aetate de Vatican II, qui ne comprend plus d'appel à la conversion des juifs, qui n'envisage plus la conversion des juifs. Elle ne dit pas « on ne va pas convertir les juifs », mais enfin, elle n'en parle plus, ce qui est déjà un pas. Et simplement, elle exprime le vœu que tous les peuples invoquent le Seigneur d'une seule voix et le servent sous le même joug. Ce qui est une déclaration qui ne veut rien dire, comme beaucoup de déclarations de Vatican II, et qui sera suivie par toute une pratique qui permet depuis de l'interpréter. Autre texte de Vatican II, il y a une confession de responsabilité à l'égard du peuple juif qui consacre l'abandon de l'accusation de déicide, telle que la concevait Pascal, et qui reconnaît qu'en ayant colporté de telles rumeurs, l'Église catholique a sa part de responsabilité dans l'antisémitisme européen. Mais ce qui est surtout important, c'est de voir la pratique qui a suivi ces textes de Vatican II et qui culmine avec la note qui a été publiée par le secrétariat pour l'unité des chrétiens, parce que ça, c'est aussi une des applications extraordinaires de Vatican II, c'est que les relations avec le judaïsme ont été confiées au secrétariat pour l'unité des chrétiens. Ça peut paraître paradoxal, mais qui ne l'est pas, nous le verrons. Et donc, le cardinal Wildbrandt, qui est d'ailleurs le grand apôtre de ce rapprochement avec le judaïsme, ce cardinal Wildbrandt a publié en 1985, au nom de la Commission pour l'unité des chrétiens, une note pour une meilleure présentation des juifs et du judaïsme dans la catéchèse de l'Église. Et alors, dans cette note, on lit cette phrase extravagante, « Attentifs au même Dieu, juifs et chrétiens doivent préparer ensemble la venue du Messie. » Alors, ça paraît absurde. Ça paraît complètement invraisemblable, et en fait, ça ne l'est pas. Il y a une cohérence dans tout ça que nous allons voir. En avril 1986, donc un an après, le pape se rend à la synagogue de Rome, et là, il déclare aux Juifs « Vous êtes nos frères de prédilection, et dans un certain sens, nos frères aînés. » Ça, frère aîné, à la limite, on peut l'accepter, parce que Ésaü est le frère aîné de Jacob. Toute l'Écriture est pleine de paraboles sur le frère aîné qui est infidèle. Mais le pape poursuit, la religion juive ne nous est pas extrinsèque, elle est intrinsèque à la foi chrétienne. Alors c'est là où est le basculement, et c'est là où on commence à interpréter mieux Nostra Aetate, c'est-à-dire que ce que fait Jean-Paul Delà, c'est la confusion entre le respect que l'Église catholique porte à la religion d'Abraham et de Jacob, et l'attitude qu'elle a vers la religion du rabbin Sira. C'est-à-dire qu'elle dit, se fondant sur le fait qu'effectivement la religion d'Abraham et de Jacob nous est intrinsèque, elle applique cette qualité au judaïsme contemporain. C'est dire que c'est la même religion. C'est là où est le changement. Or, jusqu'à maintenant, on avait toujours distingué les deux, considérant que le judaïsme d'après le Christ n'est pas fidèle au judaïsme d'avant le Christ. Enfin, tout ça culmine en octobre 1986 avec la réunion d'assises où les juifs sont classés dans les documents officiels parmi les chrétiens. Il y a donc, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces faits isolés peuvent paraître incohérents, stupides. Pourquoi est-ce que la Commission pour l'unité des chrétiens s'occupe des juifs? Bah, c'est une erreur. Ça. Oui, mais enfin, toutes ces erreurs convergent. Les juifs sont classés parmi les chrétiens dans les documents officiels, et sur l'estrade d'assises où sont rangés tous les chefs religieux, le rabbin est avec les chrétiens. Il est la dernière confession chrétienne, et il parlera juste avant les chrétiens. Après les non-chrétiens, mais il est le dernier non-chrétien juste avant les chrétiens. Enfin, non-chrétien à notre sens à nous, mais pas non-chrétien au sens du Vatican. Alors, comment essayer de comprendre toute cette évolution qui paraît absurde? Eh bien, l'explication, on la trouve dans le livre du cardinal Lustiger, Le choix de Dieu. Parce que qu'explique le cardinal Lustiger? Le cardinal Lustiger a lui aussi des phrases étranges. On lui demande, pour vous, est-ce qu'un juif qui ne reconnaît pas le Christ comme le Messie, est-ce qu'il est dans la vérité ou dans l'erreur? Et le cardinal répond, dans la vérité ou dans l'erreur? S'il n'est pas un homme, c'est seulement Dieu qui peut dire ça. Alors si un cardinal de la Sainte Église ne peut pas vous dire si c'est la vérité ou l'erreur que le Christ est le Messie, pourquoi les paye-t-on? Je se pose la question. Donc, le cardinal Lustiger développe en réalité une explication théorique de toute cette dérive. C'est qu'il explique, au fond, les juifs ne sont pas coupables de ne pas avoir reconnu le Christ, parce que le Christ qu'ils attendaient était un Messie glorieux, et Dieu a envoyé un Messie souffrant. Alors les pauvres gens, ils n'avaient aucun moyen dans l'Écriture de voir que c'était un Messie, que le Christ était le Messie. Or, les juifs continuent à attendre un Messie glorieux. Et nous aussi, puisque nous attendons le retour du Christ dans la gloire, de la parousie, du jugement dernier. Donc, on attend le même. Et voilà l'explication de Willebrand disant « Attentifs au même Dieu, juifs et chrétiens doivent préparer ensemble l'avenue du Messie. » Nous, c'est deuxième passage. Eux, c'est premier passage. Et alors, je vous assure que ça n'est pas exagéré. Je dois avoir des citations là. Toujours un petit peu long de faire des citations, mais... Voilà la situation exacte. « Parlons du juif qui se désintéresse complètement de Jésus. Pour vous, est-il dans l'erreur ou dans la vérité ?» demande l'intervieweur. Réponse, « Dans l'erreur ou dans la vérité ? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui peut répondre à cette question. » Alors ensuite, l'autre passage intéressant. Il parle de l'énigme de la mise à l'écart d'Israël. Or, une mise à l'écart, c'est une mise en réserve. Et il parle de la conversion d'Israël au dernier jour. Il dit « Je ne vois pas ce que pourrait signifier l'universalité d'un salut qui n'engloberait pas autant les morts, ce que nous appelons les morts, que les vivants. » Et donc, il prophétise la conversion d'Israël, « Col Israël, dit-il, tout Israël, les vivants et les morts. » C'est-à-dire qu'au jugement dernier, les morts d'Israël, morts dans le judaïsme, seront collectivement convertis au christianisme, parce qu'au fond, ce qu'ils auront attendu, c'est le Messie glorieux. Donc, ils auront été fidèles aux promesses de Dieu, puisqu'ils auront attendu le Christ. Donc, la théorie, la théologie, si l'on peut dire, qui est élaborée là et qui explique toute la dérive de l'Église depuis Nostra Aetate, c'est qui est élaborée, ne sont pas infidèles, ils sont fidèles, mais ils sont fidèles à ce que l'on appelle maintenant le Premier Testament. Tout ça n'est pas indifférent. Tout le monde dit maintenant le Premier Testament et non plus l'Ancien Testament. Pourquoi Premier et non pas Ancien? Parce que Ancien, ça laisse penser que c'est caduque, que c'est une chose qui est terminée. Donc premier, c'est au contraire le premier de la classe. Et ensuite, ils ont une mission surnaturelle propre, qui n'est pas la nôtre, qui est de préparer la parousie, qui est de préparer ce que nous appelons le retour glorieux, et qu'eux appellent la venue glorieuse. Mais c'est le même. Et donc, il ne faut pas tenter de les convertir, puisque leur conversion sera collective et rétroactive à la fin des temps. Et qui ne sera pas vraiment une conversion, puisque, en fait, ils auront toujours été fidèles aux promesses de Dieu. Donc, à la théologie de la substitution, théologie de la substitution, c'est-à-dire substitution de l'Église à Israël dans l'alliance de Dieu, elle est remplacée par l'idée de deux missions parallèles, la mission de l'Église pour les païens et la mission d'Israël pour les juifs. Ce qui fait que le même cardinal Lustiger dit « la catégorie de chrétiens n'abolit pas celle de juifs ou de chrétiens ». Parce que saint Paul a dit exactement le contraire mot pour mot, mais il y a deux missions. Alors lui, il pense, j'ai l'impression que... Il prépare les deux à la fois, alors c'est pour ça qu'il dit qu'il est juif et chrétien. Alors, que pensent les juifs de cette théologie? Bon, évidemment, ils n'adhèrent pas, la communauté juive n'adhère pas à cette théologie sans réserve, parce qu'ils ne pensent pas qu'ils attendent le Christ, bien sûr. Hein, donc ils ne se sont pas ralliés à la théologie de Lustiger, ce qui fait que de temps en temps, il y a un rabbin qui dit « mais l'archevêque de Paris doit choisir, il est juif ou il est chrétien, mais il ne peut pas être les deux à la fois ». Mais quand même, l'ensemble de la communauté juive a pas trop mal accueilli cette dérive, elle a même très bien accueilli. En tout cas, quand on voit qu'elle est un petit peu remise en question, ils hurlent. Pourquoi ? Parce qu'ils en prennent le positif. Et le positif, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée qu'ils ne sont pas infidèles aux promesses de Dieu, qu'ils sont toujours dans l'alliance de Dieu, qu'ils ont toujours une mission surnaturelle. Alors bon, ils prennent ça. Après, ils disent, pour le reste, on dialogue. Mais ça, ceci est acquis. En plus, il faut dire que les Juifs n'ont pas la vocation de convertir les païens au judaïsme. Eux, ils estiment qu'ils sont le peuple de prêtres, et que donc, à partir du moment où petit à petit les chrétiens renoncent au Christ comme étant le Messie, on peut s'entendre. Et c'est ce qui explique la chose extraordinaire. Je vous ai parlé d'Assise tout à l'heure. Eh bien, à Assise, le rabbin a donc fait une prière parmi les chrétiens. Et la prière du rabbin Assise, elle mérite d'être citée. On dirait qu'elle est incontestable, elle est tirée de l'Ancien Testament. Mais enfin, il faut voir ce qui se passe dans la tête d'un rabbin qui prie à Assise devant des représentants de toutes les religions qui sont rassemblés autour de lui. Et voilà ce qu'il dit, le pape en tête. Et voilà ce qu'il dit. « Ô Seigneur notre Dieu et Dieu de nos pères, accomplis pour nous et le monde entier la promesse que tu nous donnas par le prophète Michée. » Et là, il cite le prophète Michée. « Or, il adviendra dans l'avenir que la montagne du temple du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et s'élèvera plus haut que les collines. Des peuples y afflueront, des nations nombreuses s'y rendront et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivons ses sentiers. » Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il régira des peuples nombreux, et sera l'arbitre de nations puissantes. » C'est-à-dire qu'il est clair que dans la tête de ce rabbin, l'évolution de l'Église vers cette espèce d'œcuménisme débridé et interreligieux conduit à une prééminence de la plus ancienne religion, c'est-à-dire le judaïsme, qui est la plus complète, etc., que pour les païens, dans la mesure où ils renoncent à les considérer comme des infidèles, des déicides et des traîtres, leur morale... La morale des droits de l'homme, la morale humanitaire qui est devenue le fond commun des chrétiens, finalement convient tout à fait aux juifs pour les païens, dans la mesure où ils respectent cette espèce de prééminence de leur peuple de prêtres. C'est d'ailleurs dans le livre de Jean-Marie Popper qui s'appelle « Les chrétiens de la déchirure », qui est consacré à la crise de l'Église, il y a un texte assez intéressant qui est un texte d'un dialogue entre Jean-Marie Popper et un rabbin, le rabbin Shekroun, en 1966. À l'époque, Jean-Marie Popper était très progressiste, il faisait ça pour la revue Ecclesia. Et le rabbin Shekroun lui dit tout simplement que le judaïsme est réservé aux juifs et que pour les nations, en gros, la morale du noachisme, la morale de Noé, quelques règles élémentaires suffira bien, et que le progrès spirituel de l'humanité, c'est simplement que l'on reconnaisse les juifs comme le levain dans la pâte, comme le peuple qui est spirituellement porteur des plus grandes richesses. Alors nous voilà un petit peu loin du Carmel d'Auschwitz, mais on n'y est pas en réalité, on n'est pas si loin, parce que en quoi est-ce que le Carmel d'Auschwitz trouble cette évolution vers cette espèce de perte d'identité du christianisme par rapport au judaïsme, cette espèce de reconnaissance de la fidélité des juifs à l'alliance de l'Ancien Testament. Eh bien, le Carmel rompt avec cette logique dans la mesure où les carmélites ont annoncé qu'elles voulaient placer leur Carmel sous la protection d'Edith Stein. Or, Edith Stein est, vous le savez, une jeune juive allemande convertie au catholicisme, qui était une jeune philosophe et qui est devenue carmélite sous le nom de Bénédicte de la Sainte Croix. Le nom n'est pas indifférent, parce que la croix est une des choses qui met le plus les juifs en fureur, alors le fait d'avoir choisi ce nom n'est pas indifférent. Et cette carmélite a donc été raflée pendant la guerre, à la suite d'une déclaration d'évêques allemands qui avaient protesté contre l'antisémitisme, justement. Et alors, comme sanction, les autorités allemandes ont raflé dans les couvents les religieux d'origine juive. Et donc, ont raflé cette sœur Bénédicte de la Sainte Croix. Elle a été déportée à Auschwitz et elle y est morte. Et ses biographes rapportent qu'elle avait souhaité expier par sa mort la faute du peuple juif. C'est-à-dire que Edith Stein, elle, s'insère parfaitement dans la théologie de Saint-Bernard, dans la théologie de la substitution, dans l'idée de la faute du peuple juif qui est infidèle aux promesses et qui est sanctionné pour son infidélité. Et cette religieuse-là meurt à Auschwitz, sur le lieu qui justement a été le prétexte de l'exigence des juifs abandonnés, demandant à l'Église d'abandonner la théologie de la substitution, c'est elle qui, à Auschwitz, justifie la théologie de la substitution. Et c'est cette perspective qui est insupportable aux Juifs. Et c'est ce que dit notamment dans un livre qui s'appelle « Lettre ouverte au cardinal Lustiger », qui est un livre assez pénible, d'un dénommé Raphaël Drey, qui est un livre très insultant pour le cardinal Lustiger. Mais enfin, ce qu'il insulte dans le cardinal Lustiger, c'est l'Église. C'est pas... Et parlant de Edith Stein, il dit ceci « Pénible témoignage ». D'abord parce qu'il démontre à quel point un esprit qui se voulait rigoureux, aussi rigoureux qu'Edith Stein, pouvait être subverti et corrompu par la théologie du déicide, et combien cette théologie était directement perverse et indirectement meurtrière. Perverse puisqu'elle incitait certains juifs à s'offrir en prétendu sacrifice expiatoire, meurtrière parce que certains chrétiens, au lieu de porter assistance au peuple juif dans ces moments de détresse, préféraient s'adonner à l'exégèse d'une théologie sadique. Alors, voilà ce que, je crois, un des crimes principaux des carmélites d'Auschwitz, c'est d'être venu à Auschwitz perpétuer le souvenir d'Edith Stein, qui, pour les Juifs, est un scandale sans précédent, puisque c'est la réaffirmation de la théologie du déicide par une Juive déportée à Auschwitz, morte à Auschwitz. Donc, une personne qu'on peut difficilement qualifier d'antisémitisme. Donc, je pense que depuis le début de cet exposé, j'essaie de m'interroger sur la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a fait un scandale à Auschwitz, pas à Birkenau, ou pourquoi l'ampleur de ce scandale qui est anormal quand on voit qu'à côté de ça, il y a des marchands de frites à Auschwitz. Eh bien, je pense qu'une des raisons fondamentales, c'est cette mémoire d'Edith Stein qui est insupportable aux Juifs. Alors, d'autant que la béatification d'Edith Stein avait été commentée par le cardinal Ratzinger dans un texte que je ne suis pas arrivé à retrouver, mais qui parlait de l'infidélité d'Israël à son Dieu et du fait que Edith Stein se soit senti devenir pleinement fidèle à son ascendance juive en devenant chrétienne, parce que pour elle accomplissait les promesses de l'Ancien Testament en devenant chrétienne. Alors c'est vraiment toute la théologie traditionnelle réaffirmée et qui est insupportable aux Juifs. Tout ça a été rallumé en plus cet été par des propos tronqués du pape qui ont été rapportés au cours de son catéchisme du mercredi. Le pape aurait parlé de l'infidélité d'Israël à son Dieu. Alors, à ce moment-là, les rabbins, parce que j'ai appris à cette occasion, il y a deux rabbins qui représentent les B'nai B'rit, c'est-à-dire les loges maçonniques juives internationales. Eh bien, il y a deux représentants des B'nai B'rit au Vatican, de façon institutionnelle, j'ignorais ça. Alors, ils ont fait une déclaration scandalisée. Et en réalité, en reprenant le texte exact, le pape ne parlait pas de l'infidélité qu'a constitué le refus du Messie, il parlait des infidélités d'Israël à son Dieu au cours de l'Ancien Testament. Voilà ce qu'il dit. L'histoire de l'Ancienne Alliance atteste que très souvent cet engagement, donc l'Alliance, ne fut pas respecté. Les prophètes reprochent en particulier à Israël ses infidélités et interprètent les événements funèbres de son histoire comme des châtiments divins. Donc le pape parlait là de l'Ancien Testament, chose que les Juifs reconnaissent. Donc le scandale, en fait, était immotivé, c'est-à-dire que Jean-Paul II n'est pas revenu, lui, sur la dérive théologique type Lustiger dans cette catéchèse de cet été. D'ailleurs, on a toutes sortes de déclarations de Jean-Paul II qui vont dans le même sens que la théologie de Lustiger, mais de façon non dite. Il n'y a que Lustiger pour expliquer ça de façon aussi claire. Alors, je vous ai dit donc que les Juifs, dans cette évolution théologique, ils ne prenaient que ce qui les intéressait, c'est-à-dire l'idée de la fidélité d'Israël à l'alliance de Dieu. Mais le but ultime, c'est évidemment pas de reconnaître le Christ glorieux du retour de la parousie comme leur Messie, mais c'est de substituer, dans l'interprétation des Écritures, un autre Messie au Christ. Et je crois que l'affaire du Carmel d'Auschwitz est un des éléments qui révèle que dans l'esprit de nombreux Juifs, religieux ou non religieux, aujourd'hui, c'est Israël en tant qu'identité collective qui est assimilé au Messie. Et j'en veux la preuve dans une partie du débat sur le Carmel d'Auschwitz, une partie des invectives. On a beaucoup parlé de silence, c'est-à-dire que le mot d'ordre avait été donné par Adi Steg, donc le représentant de la diaspora, avait dit à Auschwitz qu'il ne doit y avoir ni église, ni synagogue, ni mosquée, le ciel était vide, il doit le rester. Alors on a beaucoup glosé sur cette idée, le ciel doit rester vide. Dans un premier temps, moi je m'étais dit c'est une punition, on veut punir Dieu, il ne faut pas seulement punir les Européens, il faut aussi punir Dieu qui n'a pas aidé les Juifs, hein, le privant de prière sur cet endroit-là. C'est un aspect un peu, vous savez, beaucoup de philosophes juifs défendent l'idée qu'on ne peut plus penser après aux juifs. Alors la philosophie doit être punie. Il n'y a plus de philosophie parce que la philosophie occidentale ayant permis aux juifs, eh bien, elle doit être répudiée. Montaigne, Descartes, Pascal doivent être brûlés. Il faut penser sur des bases nouvelles. Alors je me suis dit, ça doit être la même chose sur le plan théologique. Il faut brûler toute la théologie ancienne qui a permis aux juifs. Et puis, chose qui m'a étonné, c'est le ralliement cet été du rabbin Sirat à cette idée du ciel vide. Le ciel était vide, il doit le rester. Alors le rabbin, je ne pense pas que son idée, ça soit de faire le crépuscule des dieux, parce que c'est son fonds de commerce. Donc il n'y a pas de raison, excusez-moi, monsieur l'abbé. Et donc il y a autre chose. Et alors cette autre chose, je crois, enfin c'est une hypothèse que je vous livre, évidemment tout ça, il n'y a pas de certitude là-dedans. Je crois l'avoir trouvé aussi dans le bouquin de Drey, Raphaël Drey, qui dit ceci. Pour comprendre Auschwitz, il faut lire le livre de Job. Et pour comprendre le silence d'Auschwitz, il faut relire le livre de Job. Et alors, que dit le livre de Job? Le livre de Job dit que Job n'avait pas de faute, a été puni de façon absolument inqualifiable, injuste par Dieu, qu'il a été abandonné par tous ses amis, et que lorsque Dieu lui a fait voir sa puissance, sa justice, etc., et l'a relevé, Job a mis sa main sur sa bouche et n'a plus parlé et n'a rien dit. Et alors, à ce moment-là, Dieu l'a élevé au-dessus de tous ses amis, lui a fait une situation tout à fait prééminente et supérieure à celle qu'il avait auparavant. Et je pense que beaucoup de Juifs interprètent aujourd'hui Auschwitz, la persécution, etc., à partir du livre de Job, et que c'est l'explication du silence qu'il demande pour Auschwitz. Parce que Job puni injustement, eh bien c'est le peuple juif persécuté injustement. Job abandonné par ses amis, eh bien c'est les juifs abandonnés par les nations chrétiennes qui les hébergeaient, qui les ont laissés déporter. Et Job qui ne répond pas à Dieu, eh bien c'est le silence d'Auschwitz. Et la fin, c'est Job élevé au-dessus de ses amis. Je vous laisse finir la comparaison. Et ça justifie d'ailleurs tout le reste, si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut que Auschwitz soit seulement le lieu de la persécution juive, parce qu'on ne peut plus l'interpréter comme ça si d'autres ont été persécutés, parce que dans le livre de Job, il n'y a que Job qui est persécuté. Et puis, il faut que les chrétiens aient été complices, il faut que Pie XII ait été complice, puisque dans le livre de Job, les nations, les amis de Job le laissent tomber. Et puis, il faut garder le silence. Donc, tout ça débouche sur l'identification d'Israël au Messie des Écritures, et la volonté de faire, je pense pour certains, la restauration de l'État d'Israël, la volonté de vouloir interpréter la restauration temporelle de l'État d'Israël comme l'avènement du Messie, au moins de temps messianique, pour d'autres, de justifier la domination de la diaspora sur les élites occidentales comme un avènement messianique. Alors je voudrais maintenant aborder plus rapidement, parce que je me suis un petit peu étendu sur cette première partie, mais qui je crois a été la plus importante, sur les deux autres aspects que je voulais développer devant vous. Je crois pouvoir défendre l'idée qu'il y a donc eu un complot contre le Carmel. Alors pourquoi est-ce qu'on peut parler de complot? D'abord parce qu'il n'y a pas eu de négociation. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas les carmélites dans la commission mixte paritaire, si je puis dire. Il n'y avait pas le supérieur des Carmes, il n'y avait pas le provincial, il n'y avait pas le primat de Pologne. Ça fait beaucoup de monde qui n'était pas là. Et cette juridiction étrange que se sont attribués les cardinaux Lustiger de Courtrai et d'Anels, qui ont justifié leur présence dans cette commission mixte paritaire par le fait qu'ils étaient évêques des lieux où la communauté juive était troublée. C'est-à-dire, c'était les juifs de France et les juifs belges qui étaient furieux du Carmel d'Auschwitz, donc c'était les cardinaux français et belges qui devaient intervenir par juridiction, au fond, sur les juifs belges et les juifs français. Explication curieuse. Et alors, vraiment, j'ai cherché très longuement et je n'ai rien trouvé. J'ai téléphoné tout ce qu'on pouvait faire à l'archevêché de Paris. On m'a dit que personne n'était au courant, que c'était sûrement le Vatican qui les avait nommés, mais qu'on ne pouvait pas dire ni qui, ni où, ni pourquoi. Et puis ensuite, j'ai téléphoné à l'archevêché de Lyon. On m'a dit que la personne qui s'était occupée de ça avait maintenant pris sa retraite. Et que donc, il était impossible de savoir, que la question avait été posée récemment au cardinal de Courtrai, mais que personne ne pouvait se souvenir de sa réponse. Alors tout ça était curieux. Et puis, j'ai trouvé l'explication dans le dossier spécial de l'événement du jeudi, qui date du 7 septembre. Hein, c'est un dossier juif catholique spécial sur le Carmel d'Auschwitz, et dans lequel il y a un grand récit. Alors ce récit est très intéressant, ça s'appelle Auschwitz, ce Carmel par lequel le scandale arrive. Il est intéressant non pas par les connaissances du journaliste qui qu'il a écrit, parce que honnêtement, c'est un type qui n'y connaît rien, ça se voit. Mais, comme souvent, quand un journaliste ne sait rien, ce qui arrive, il va voir un interlocuteur, et puis comme c'est plus facile de faire un article en racontant la version que vous a donné un interlocuteur que de la faire à partir de trois interlocuteurs, parce que ça fait trois après-midi passés avec quelqu'un au lieu d'une, eh bien, on lit vraiment à travers les lignes de cette interview, de cet article, que cet article a été fait par une rencontre entre M. Maurice Safran et M. Théo Klein, et qu'il nous donne la version de M. Théo Klein. Et vraiment, si vous voulez, j'ai un petit peu l'expérience de ce genre de choses. Je crois pouvoir dire que nous avons là la version de Théo Klein, parce qu'on voit, si vous voulez, chaque fois que quelqu'un intervient pour commenter ce qui est dit comme une vérité historique, c'est toujours Théo Klein. Le commentaire et le récit s'entremêlent. C'est très nettement Théo Klein qui a expliqué à Safran comment les choses se sont faites. Et ça rend la chose très intéressante, parce que c'est Théo Klein parlant à Maurice Safran, qui est un journaliste relativement connu, mais qui ne s'occupe jamais d'affaires religieuses, qui est un journaliste politique, et qui est juif, et qui donc était en confiance avec M. Théo Klein, qui donc lui a raconté sa version des faits. Et cette version est passionnante. Alors voilà, je vais vous lire, hein, c'est vraiment, c'est pas du travail, je vous lis l'événement du jeudi, mais je crois que c'est très intéressant. Alors il explique donc, l'affaire éclate, c'est affreux. « Ils sont cinq à ne pas désespérer d'un accord. Deux catholiques, les cardinaux de Courtrai et Lustiger, trois juifs, l'avocat Théo Klein, alors président du conseil représentatif des institutions juives, un chirurgien réputé, le professeur Steg, et le grand rabbin Sira. » Voilà l'introduction. Ils sont cinq à ne pas désespérer d'un accord. Donc il y a déjà une première partie qui est constituée de cinq personnes. Trois juifs, deux catholiques. Et donc on n'est pas dans le dispositif d'une négociation entre juifs et catholiques, mais pour l'instant, la cellule originelle est faite par cinq personnes. Et il détaille. Une première réaction de Mgr de Courtrai, quelques semaines après les révélations du soir, rassure le trio juif. Trio juif, donc, c'est Steg, Sira, Klein. Auschwitz rappelle le primat des Gaules et le symbole de la Shoah, qu'on respecte le peuple juif partout, y compris à Auschwitz. Décodage, dit M. Safran, l'Église de France est favorable au départ des carmélites, puisque celles-ci, par leur seule présence, blessent la sensibilité juive, et surtout occulte une juste compréhension de l'histoire. Le cardinal Lustiger, juif converti au catholicisme et dont la mère est morte déportée à Auschwitz parce que juive, fait à son tour savoir qu'il approuve de Courtrai. Entre parenthèses, le cardinal Glimp a perdu aussi sa mère en déportation. Je crois que Mgr Lefebvre a perdu son père en déportation. On ne dit jamais Mgr Lefebvre dont le père est mort en déportation. Ça n'arrive jamais. Mais le cardinal Lustiger, c'est indispensable parce que ça rend son témoignage indiscutable. Donc le cardinal Lustiger fait à son tour savoir qu'il approuve de Courtrai, qu'il est disposé à entreprendre tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord. L'hypothèse d'une négociation prend alors consistance. Alors voilà l'aveu formidable. On commence par s'assurer que les cardinaux sont d'accord, pour dire qu'à partir du moment où on sait que de Courtrai et Lustiger sont en plein accord avec Klein, Sira et Steg, on va pouvoir discuter avec eux. C'est une méthode de négociation qui en vaut une autre. L'hypothèse d'une négociation prend alors consistance, puisqu'on sait Lustiger proche de Jean-Paul II. Le cardinal, alors là, écoutez, c'est savoureux. Le cardinal, c'est Théo Klein qui parle. Le cardinal a eu un comportement parfait, estime Théo Klein. Dans ces moments graves, Jean-Marie Lustiger n'a pas oublié qu'il se prénomme aussi Aaron. Encore faut-il convaincre Joseph Glimp et Franciszek Macharski de se prêter à ce jeu diplomatico-théologique. Ce sera le premier épisode d'une interminable partie de dupes. À la fin de 1985, Mgr Glimp est de passage à Paris. Sira demande à le rencontrer et les deux religieux se retrouvent dans un bureau du séminaire catholique polonais au fond d'une petite rue du 5e arrondissement. Avec sa chaleur, sa jovialité et sa faconde méditerranéenne, le rabbin se lance dans de longues explications. Non, il ne met pas en cause la bonne foi de l'Église, il ne doute pas non plus de l'ampleur de son évolution quant au judaïsme, on rappelle quand même les acquis, mais Auschwitz occupe une telle place dans l'histoire de son peuple que les carmélites n'ont qu'une issue, se retirer. Sira est ouvert à tous les débats, prêt à argumenter autant qu'il le faudra. La réponse du primat de Pologne est à ce point inattendue qu'elle le laisse d'abord pantois, blessé et choqué, se souvient-il. « Je comprends, monsieur le rabbin, le sens de votre protestation. À ma connaissance, poursuit Glimp, 1 800 000 Polonais sont morts à Auschwitz et vous savez à quel point les Polonais sont attachés à l'Église. » Donc Glimp, dès l'origine, fait connaître à ces gens-là qu'il est contre. Maintenant, on nous a expliqué, vous vous en souvenez sûrement cet été, que Glimp avait découvert seulement en 1989 qu'il était contre le Carmel. On découvre dans l'événement du jeudi que dès 1985, au tout départ, ils ont été voir Glimp. Glimp leur a dit « Je ne veux pas du déménagement du Carmel. » Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont changer de négociateur. Ils vont négocier avec quelqu'un d'autre. C'est si simple. Malgré Glimp, de Courtrai, Lustiger, Klein, Steg et Syrah, toujours les cinq, donc les cinq affidés qui sont toujours considérés comme étant dans le même cas, de Courtrai, Lustiger, Klein, Steg et Syrah ne renoncent pas. Puisque les carmélites sont installés sur le territoire de l'archevêché de Cracovie, peut-être y a-t-il une dernière chance, persuader le cardinal Macharski. Alors, là encore, cet été, on a beaucoup dit, mais au fond, Macharski était dans la négociation, donc ça a été fait dans les règles. Là, on nous apprend qu'en fait, c'est seulement parce qu'on n'a pas pu négocier avec Glimp qu'on est allé chercher Macharski. Lustiger dépêche auprès de lui l'un de ses plus proches collaborateurs, le père Dupuis. Alors là, je voudrais faire une parenthèse. C'est que, d'abord, Safran n'y connaît rien, Dupuis n'est pas un collaborateur de Lustiger. Le père Dupuis est le secrétaire des relations, chargé par les évêques de France, des relations avec le judaïsme. Et alors, qui est ce père Dupuis? Donc, ce n'est pas un collaborateur de Lustiger, c'est l'homme qui s'occupe du dialogue judéo-chrétien dans l'Église de France. Et là, je voudrais vous citer Jean-Marie Popper, qui n'est pas quelqu'un de notre bord. Et voilà ce qu'il dit du père Dupuis. Il a un chapitre de son livre qui s'appelle « Les méfaits du confusionnisme, le père Dupuis ». Le cas du père Bernard Dupuis, dominicain, officiellement chargé dans l'Église de France des rapports avec le judaïsme, n'est pas moins grave. Il est bien pis. Lui ne se contente plus de caresser, il fornique avec l'hérésie. Depuis des années, avec curiosité d'abord, puis inquiétude et exaspération, je suis la carrière et les travaux de cet homme affable et souriant, que j'ai bien connu dans les années 50, quand frais et moulu de Polytechnique, il était novice dominicain et le meilleur garçon du monde. Je crains qu'il n'eût mieux fait, lui aussi, de faire ingénieur, construisant des ponts de béton et des machines d'acier, plutôt que de faire dominicain, surtout suspendant entre juifs et chrétiens des ponts incertains de papier mâché, de chewing-gum et de guimauve. Bon, c'est le style de Popper qui est assez amusant. Et alors, ce que raconte Popper, c'est une réunion, le congrès de l'amitié internationale judéo-chrétienne de Montréal, auquel a été Bernard Dupuis, et alors il cite des extraits de la contribution de ce père Dupuis. Alors, qu'est-ce que c'est que le texte du Bernard Dupuis ? Rejetant les attitudes qui avaient conduit à nier l'existence juive, les églises reconnaissent le judaïsme comme une religion authentique devant Dieu, porteuse de sa destinée et de son sens, et non comme une étape nécessaire mais dépassée en vue de l'avènement du seul christianisme. C'est-à-dire, c'est exactement la théologie du cardinal Lustiger. Le judaïsme n'est pas une religion dépassée, c'est pas seulement le judaïsme de l'Ancien Testament qui nous intéresse, mais le judaïsme contemporain continue dans l'alliance de Dieu. Donc c'est exactement la même théologie. Et alors, commentaire de Popper. Ensuite arrive l'ambiguïté redoutable, et là il cite Dupuis. « L'histoire demeure ouverte, dit Dupuis. Nous n'avons reçu, nous chrétiens, aucune prophétie eschatologique qui nous permettrait de surplomber d'avance l'histoire qui vient. Selon les actes, la venue du royaume de Dieu demeure dans la main de Dieu. » Fin de citation. Que signifie cet obscur pathos, demande Popper. Ou bien il s'agit d'une bouvard et pécucherie du genre « Qu'est-ce qu'on sera demain, ma Michu, et qui c'est qui va gagner la Coupe des Nations ? Va-t'en savoir. » Ou bien, dans un registre plus noble, s'agit-il d'un rappel scripturaire de la parole du Christ sur la fin des temps et un second avènement ? Nul ne sait le jour ni l'heure de la venue du Fils de l'homme. Ou bien ne s'agit-il pas plutôt d'un doute jeté sur l'issue finale de cette fin des temps et des modalités, juive ou chrétienne ? On ne sait pas si elle sera juive ou chrétienne. Dupuis a voulu faire comprendre à son auditoire qu'après tout, ni les juifs ni les chrétiens ne pouvaient savoir si l'eschatologie serait chrétienne ou juive, c'est-à-dire si à la fin des temps, le monde serait juif ou chrétien. Hésitation et doute impardonnables, inadmissibles et pour tout dire hérétiques de la part d'un théologien catholique, car toutes les Écritures et toute la tradition chrétienne prévoient que c'est Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu, sauveur, qui viendra au dernier jour dans sa gloire juger le monde. Voilà le commentaire de Popper. Alors il donne simplement une petite anecdote que je vous livre, c'est qu'à la fin de sa prestation, monsieur Victor Goldblum, organisateur du colloque, saluera la prestation du rabbin Dupuis. Dans un lapsus qu'elle a. Donc, cette parenthèse pour dire, voilà qui est l'homme que les affidés, de Courtrai, Lustiger, Klein, Steg et Syrah, délèguent à Macharski. Le père Dupuis, avec une double mission, d'abord faire accepter au cardinal polonais le principe d'une négociation qui se tiendrait en terrain neutre, c'est entre guillemets, à Prégny, un village proche de Genève, dans une résidence prêtée par le baron Edmond de Rothschild. Ensuite, geste de la plus haute portée symbolique, persuader Macharski de visiter avant tout contact avec la délégation juive Yad Vashem, le musée de la Shoah, sur l'une des collines de Jérusalem. C'est-à-dire qu'avant d'engager la négociation, on l'envoie se faire laver le cerveau. C'est vraiment ce qu'il dit. Macharski est revenu bouleversé, raconte Théo Klein. Là-bas, il a eu de très longues conversations avec le directeur du musée, un juif d'origine polonaise. Il est entré alors dans une logique qui, auparavant, lui était tout à fait étrangère. J'ai cru qu'il nous avait compris. Alors voilà cette négociation. On nous dit qu'il y avait trois chrétiens trois juifs. En réalité, il y en a cinq qui sont déjà d'accord. Et le seul qui ne sont pas d'accord, on l'envoie à Jérusalem se faire former en université d'été. Je continue parce que c'est passionnant. Nous n'avions alors qu'un seul objectif, se souvient Théoclin, nous rendre compte s'il existait ou non une possibilité, aussi ténue soit-elle, de compréhension mutuelle. Après un exposé de Stegl, là il parle donc de la première rencontre de Genève, les cardinaux français et le cardinal belge Danels ont été formidables. Ils nous ont aidés à persuader Macharski de la justesse de nos revendications. Donc la négociation s'est faite entre De Courtrai, Lustiger, Danels et Macharski. Les autres comptaient les points. Dans un premier réflexe, mais sans enthousiasme excessif, Macharski reprenait à son compte les thèses traditionnelles de l'Église polonaise. Eh bien oui. Malgré tout, dans un premier réflexe, le cardinal défend la partie catholique. Ça étonne M. Safran, mais les Juifs, explique-t-il, méprisent parfois le martyr enduré par les Polonais sous le nazisme. Ensuite, l'archevêque de Cracovie se prend les pieds dans un argumentaire de topologie concentrationnaire fréquemment utilisé par les carmélites elles-mêmes. Les Juifs n'ont pas été exterminés à Auschwitz I, mais à Birkenau, donc il reprend l'argumentation catholique. C'est ce que M. Safran appelle se prendre les pieds dans un argumentaire de topologie concentrationnaire. L'argument est pauvre, Macharski en est conscient, dit Safran, qui était dans sa tête. Au terme de cette première réunion, le climat est cependant détendu. Avant le repas strictement cachère, le cardinal de Courtrai et le rabbin Syrah s'époumonnent à chanter en chœur quelques psaumes. Voilà pour l'ambiance. 6 mois plus tard, la seconde et ultime séance de négociation sera aisée. Il y avait de fortes tensions au sein de la délégation catholique, remarque Théoclin. C'est-à-dire que, bon, le pauvre Macharski, qui est un intellectuel, qui est quelqu'un qui est très dans ses livres, paraît-il, s'est fait cerner de près par le reste de la délégation catholique. Les Polonais étaient réticents. Macharski finit par signer. Les carmélites se retireront dans un délai de 24 mois et s'installeront à 500 mètres plus loin, etc. Donc tout ça a toutes les apparences d'un pauvre cardinal qui s'est fait chambrer par 3 autres cardinaux et 3 négociateurs juifs. Il n'y a donc pas tout ce que l'on nous dit sur une négociation qui aurait mis en présence de façon égale des représentants du catholicisme et des représentants de la communauté juive est absolument fallacieux. Alors la deuxième question que je voudrais poser à propos de ce qu'il faut bien appeler le complot du Carmel, c'est le cardinal de Courtrai. Bon, le cardinal Lustiger, on sait théologiquement quelles sont ses positions. Moi, je voudrais m'interroger devant vous sur le cardinal de Courtrai, parce que le cardinal de Courtrai a été le grand homme de toute cette affaire. Il a été le président de la commission pour la partie chrétienne. Le cardinal Lustiger, finalement, est resté un petit peu en retrait dans cette affaire. Or, l'attitude du cardinal de Courtrai est très étonnante, et je voudrais poser la question, est-ce que dans cette affaire, le cardinal de Courtrai a été un homme libre? Parce que pour négocier, il faut être libre. Et je pose la question parce que, chose étrange, la première position exprimée par le cardinal de Courtrai sur cette affaire remonte à décembre 1985, donc dès que ça éclate dans la presse belge, et c'est une prise de position contre les carmélites. Mais cette prise de position est étrange en ceci qu'elle révèle qu'il ne connaissait strictement rien à l'affaire, puisqu'il parle d'un carmel à construire, c'est-à-dire que le carmel existe depuis un an, qu'il ne s'agit pas de le construire puisque c'est un bâtiment qui existe déjà, qu'il ignore donc tout de l'affaire, et bien il prend déjà position. Voilà ce qu'il dit. « Pour moi et pour l'opinion mondiale, c'est une clause de style, ils ont renoncé à l'infaillibilité, mais pas dans tous les domaines. Pour moi et pour l'opinion mondiale, Auschwitz est le symbole de la Shoah. Une pareille épreuve a conféré au peuple juif une dignité particulière, et construire un carmel à Auschwitz serait touché à cette dignité. » Alors le mot important, c'est construire. Ça prouve qu'il n'a même pas étudié le dossier. C'est-à-dire qu'avant même de savoir de quoi il s'agissait, il était dans cette affaire du côté de la partie juive. Et ce qui est surprenant, qui mérite d'être noté, c'est que dans cette affaire, alors que le cardinal Lustiger a quand même toujours eu une position relativement prudente, lui a fait de la surenchère de façon vraiment abusive. Il donne quelques mois plus tard une interview à Globe. Globe, c'est le mensuel branché Harlem Désir, etc. Je vous signale à toute fin utile que là-dessus, il est un prédécesseur de Mgr Gaillot, puisque pour les illustrations publicitaires. Et dans cette interview à Globe, il fait de la surenchère par rapport à l'intervieweur. Parce que, voilà ce qu'il dit. Il dit « Ceux qui ont exterminé les Juifs, les savants qui ont conçu cette extermination de type industriel, les exécuteurs, les gardiens, étaient dans leur immense majorité des baptisés catholiques ou luthériens. » Auschwitz est en terre chrétienne. Il est atroce de penser cela. C'est-à-dire qu'il fait vraiment de la surenchère sur le thème « Ce sont les chrétiens qui ont persécuté les juifs ». Et l'intervieweur de Globe, qui n'est pas un intégriste, répond « Oui, mais enfin les carmélites disent athéisés, disent que les bourreaux étaient en réalité des athées ». Peut-être athéisé, répond le cardinal, mais on n'efface pas le baptême. Athéisé ou pas, 80% aujourd'hui des Français se déclarent chrétiens. Donc, surenchère sur le thème « L'Église est coupable du martyr juif ». Deuxième exemple de cette surenchère permanente, je vous ai dit que la deuxième rencontre de Genève en 1987, avant qu'elle se tienne, le Théoclin avait dit « Il n'y aura pas de troisième rencontre, cette fois-ci où vous cédez, où on arrête tout, et puis alors avec animation médiatique ». Eh bien, comment est-ce que le cardinal de Courtrai raconte cette réunion? Eh bien, il raconte dans l'événement du jeudi en disant « J'ai vécu les rencontres de Genève comme un passage de l'esprit ». Quand même, qui disent « Il a bien fallu céder du terrain », je veux bien, mais un passage de l'esprit, c'est quand même un peu gros. Et alors, on se rend compte qu'il y a, chez le cardinal de Courtrai, une fascination pour le judaïsme qui est très paradoxale. Alors, j'ai lu différentes choses que je vous rapporte, mais on me dit qu'au-dessus de son bureau, il a fait inscrire « Schéma Israël, écoute Israël ». Bon. Mais enfin, disons qu'il n'était pas forcément obligé de le dire en hébreu. Il est très ami d'Elie Wiesel. On me dit qu'il a ses livres sur sa table de chevet. Je vous dis ça, je l'ai lu, je n'ai pas été voir. Mais enfin, c'est tout de même curieux. Et puis on s'aperçoit que tout au long de sa carrière, en 1981, quand il arrive à Lyon comme cardinal, quel est son premier réflexe? Eh bien, c'est d'aller à Montluc, à Saint-Genis-Laval, aux endroits où il y a eu des actes de barbarie nazie. Bon, ça n'a rien de répréhensible d'aller faire un pèlerinage sur les lieux où ont été commis des crimes. Mais enfin, le premier geste d'un cardinal archevêque de Lyon, ça aurait pu être d'aller sur le lieu du martyr de Sainte-Blandine. Non. Montluc. Ensuite, en 1983, il éclate l'affaire Barbie avec l'arrestation de Barbie. Et à l'époque, avant que Vergès se mêle de l'affaire, le bâtonnier de Lyon se commet d'office en disant « Personne ne voudra défendre Barbie, moi je le défends ». Et comme il est un peu accablé par la tâche, il demande à un jésuite qui est inscrit au barreau de Lyon, c'est un jésuite ouvrier qui exerce dans le barreau, il demande à un jésuite de l'assister dans la défense de Barbie. Eh bien, de Courtrai le lui interdit en disant que ça participe du puissant courant de banalisation du nazisme. Là, je vous cite ça entre guillemets. Enfin, le puissant courant de banalisation du nazisme en 1983, moi, ne me paraissait pas effrayant, mais lui en était préoccupé. En revanche, quand interviendra l'arrestation de Touvier l'année dernière, là, il n'hésite pas à intervenir dans le cours de la justice, puisqu'il dira « il faut que la justice passe ». Il est vrai que il parlait des religieux qui avaient hébergé Touvier, et donc suivez mon regard. Ensuite, en 1986, quand Jean-Paul II va à la synagogue, il donne un interview à Globe encore, disant qu'il est très malheureux de ne pas pouvoir aller à cette rencontre. Et il déclare, dans cette interview, « C'est un acte d'une importance historique. Je suis allé moi-même plusieurs fois prier avec les Juifs dans leur synagogue. Les prières juives sont d'ailleurs pour une bonne part mes prières, les psaumes. Autrefois, je m'étais mis en tête de pouvoir réciter les psaumes en hébreu. J'en ai appris 50 et puis j'ai arrêté. » Alors ensuite, l'année 1986, c'est l'année où il s'engage dans tous ses combats pour la société multiculturelle, où il fait toutes sortes de gestes. Oui, c'est en 1986 qu'il fait la grève de la faim, enfin, qu'il va soutenir la grève de la faim avec Cheikh Abbas, de jeunes beurs qui protestent contre les expulsions, enfin, la loi Pasqua sur les immigrés, il obtiendra des concessions, etc. Enfin, il se mouille beaucoup dans toute cette affaire-là. Et puis en 1987, il y a l'affaire Waldheim. Il y a Waldheim qui est reçu au Vatican. Et alors là, Monseigneur de Courtrai, c'est peu dire qu'il a des états d'âme, parce qu'à côté, Fabius, devant la venue de Jaroulewski chez Mitterrand, c'est rien. Puisque, voilà, c'est le 24 juin 1987. Dès le matin, il se rend à la Grande Synagogue de Lyon, puis au Mémorial de la Mémoire installé par le peintre Marek Alter au centre de Lyon. C'était un espèce de cube que Marek Alter avait installé avec des photos de déportés dans le cadre du procès Barbie pour faire une espèce de contre-procès médiatique. Donc le cardinal de Courtrai fait son reportage, Grande Synagogue, Mémorial de Marek Alter, et là il donne une interview. « Le pape est insoupçonnable, dit-il, tout de même, mais l'événement fait souffrir la communauté juive. J'ai ressenti un désarroi et une certaine souffrance. » Alors ensuite, quelques jours plus tard, s'ouvre le procès Barbie. Il invite chez lui à déjeuner Serge Klarsfeld, qui est l'avocat des parties civiles juives, et Elie Wiesel, qui vient témoigner à charge. Parce que là, il ne craint plus de participer au courant de banalisation de quoi que ce soit. Et alors, il explique cette attitude qu'il prend dans le procès Barbie, encore dans Globe, à qui donne cette fois-ci une tribune, mais c'est un habitué. Et alors, il écrit ceci, que je vous livre aussi. « À mes amis juifs, parlant donc de cette rencontre avec Serge Klarsfeld et Elie Wiesel, « À mes amis juifs, je ne puis m'adresser qu'avec un immense respect, à voix basse et en tremblant, comme le disait Elie Wiesel à propos d'Auschwitz. » Ça donne une idée, voilà le chef des négociateurs catholiques, qui est un homme qui ne peut s'adresser aux juifs qu'à voix basse et en tremblant. Ça ne donne pas une grande pugnacité pour négocier pour l'Église. Et puis alors, le dernier épisode encore de cette litanie, quand il y a l'affaire du point de détail, c'est en septembre 1987, donc la mise en cause de Jean-Marie Le Pen, il donne un interview au Monde pour dire que distinguer les chambres à gaz du génocide ou dire qu'elles ne sont qu'un point de détail de la Deuxième Guerre mondiale est un non-sens historique. Cela prouve que l'on n'a rien compris, ou plutôt que l'on refuse scandaleusement de comprendre. Et un mois plus tard, il ira présider un rassemblement interreligieux autour de la projection de Shoah, le film de Claude Lanzmann. Alors, bon, voilà quand même un cardinal qui me paraît particulièrement préoccupé par la souffrance juive. Et on peut remarquer que c'est en octobre 87, à la fin de toute cette litanie d'intervention, qu'il sera élu président de la conférence épiscopale. Alors, bon, je ne tire évidemment aucun lien de cause à effet, mais je livre ces faits à votre réflexion. On dit aussi, alors ça, j'en ai aucune vérification, j'ai lu ça dans Libération, je ne sais pas du tout quel est le sérieux, que la communauté juive lyonnaise aurait payé l'ardoise du voyage de Jean-Paul II à Lyon, qui aurait été considérable, et que, en regard de tout ce que le cardinal a fait pour eux, il paraît qu'on l'appelle notre cardinal dans ces milieux-là, c'est encore Libération qui le dit, ce n'est pas moi, ils auraient payé l'ardoise. Donc, en conclusion de cette deuxième partie sur le complot, avant de conclure très vite la troisième partie, je crois que l'on peut dire qu'il n'y a pas eu de négociation pour le déménagement du Carmel d'Auschwitz, qu'il y a eu un diktat imposé par des affidés, que sont d'une part les trois négociateurs juifs, d'autre part le cardinal Lustiger pour des raisons théologiques qu'il a exposées, et le cardinal de Courtrai pour des raisons peut-être moins théologiques, mais dont vous avez maintenant une idée. Alors, pour terminer, je voudrais donc dans une troisième partie essayer de jeter quelques lumières sur l'attitude de l'Église dans cette affaire. Pourquoi est-ce que l'Église a si mal négocié? Pourquoi est-ce qu'on a eu l'impression qu'on allait résister pour finalement abandonner au dernier moment? Il est certain qu'autant l'attitude des Juifs dans toute cette affaire est cohérente, elle est univoque, autant l'attitude de l'Église paraît tout à fait surprenante, déconcertante, ça part un petit peu dans tous les sens. Une chose, personnellement, me paraît certain, c'est que Jean-Paul II a été informé des négociations de Genève, puisque Danel s'est venu le voir avant la première rencontre, et Lustiger est revenu lui rendre compte après. Donc, en fait, le pape a été tout à fait informé. Et après l'accord, il a cité en exemple la construction du centre judéo-chrétien dans un discours aux Juifs de Vienne. Il avait dit que c'était un exemple de la collaboration judéo-chrétienne. Donc, on peut dire que le pape avait approuvé ces accords. Mais encore une fois, et ça, on le voit souvent dans l'Église actuelle, il l'avait approuvé de façon non dite, de façon implicite. Il est certain que si le pape avait dit ces accords, je les fais miens et je les impose, les carmélites n'avaient plus rien à dire. Et le pape a une juridiction immédiate sur toute la terre, donc sur les carmélites, il aurait très bien pu imposer ces accords. Mais il ne l'a pas fait. Alors, on peut dire qu'il les a approuvés, mais qu'il n'a pas voulu les imposer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu les imposer? Bien, d'une part, quand même, le cardinal Glemp avait dit son opposition au déménagement du Carmel dès l'origine. Il l'a dit, il l'a même dit dans le Figaro, en une interview. Je ne vous cite pas parce que c'est sans intérêt. Et je pense que le pape, qui est polonais, a tout de suite senti que ça passerait très mal dans la population polonaise et que la sensibilité polonaise, cette fois-ci, supporterait assez mal un diktat pour imposer le déménagement du Carmel. Alors, on a navigué un petit peu à vue en espérant que le problème se résoudrait de lui-même. D'ailleurs, de cette position un peu ambiguë du pape, j'en voudrais pour preuve le fait qu'André Frossard a participé à l'automne à une émission de France Inter où il était très très en pointe contre le Carmel, c'est-à-dire pour le déménagement du Carmel, même insultant avec un prélat polonais qui défendait les carmélites. Et il a annoncé au cours de cette émission « Je vois le pape dans 3 jours et je vous dirai quelle est ma position ». Puis après avoir vu le pape, il n'a rien dit dans un premier temps. Et puis quelques jours plus tard, il a écrit une colonne dans le Figaro disant que le pape n'avait pas nommé les négociateurs de Genève, qui se sont désignés par convenance mutuelle. S'il est vrai que le choix a été bon, il est vrai aussi qu'il n'y a pas été soumis. Et donc il explique que le pape en fait est pour les accords, mais n'a pas envie de les imposer. Donc je pense que c'est vraiment la position de Jean-Paul II. On a essayé de voir que tout ça se résolve de lui-même. Maintenant, la chose a été impossible parce que le cardinal Glemp a mis les pieds dans le plat. Et à partir du moment où le cardinal Glemp intervient publiquement à la fin de l'été, au cours de ses deux discours, enfin d'une part un discours, d'autre part une interview, en disant qu'il est hostile au déménagement, l'opinion juive internationale, les médias, etc. se mobilisent contre la Pologne catholique. C'est particulièrement embarrassant puisque c'est le moment où Solidarité arrive au pouvoir et où donc elle va faire un petit peu la quête dans le monde entier pour obtenir des fonds et où on raconte dans les médias du monde entier que les Polonais sont d'horribles antisémites alors que en principe la Pologne c'était l'Église, la partie de l'Église qui était sympathique parce que luttant contre le totalitarisme, là ça devient les horribles antisémites. Donc tout ça se déclenche le 26 août avec le sermon du cardinal Glemp à Częstochowa, sermon dont vous avez tous entendu parler, mais qui a souvent été cité de façon incomplète. Je voudrais quand même vous en lire un passage. Voilà ce qu'il dit. « La nation juive, qui n'a jamais été un voisin, mais un membre de la famille, dont le caractère différent enrichit la vie, et en même temps est la source de problèmes. Nous ne nous traitons pas les uns les autres avec indifférence, et cela peut provoquer un phénomène d'antipolonisme et d'antisémitisme. » Donc ce début de son sermon était finalement très amical pour les Juifs. Il disait « Vous êtes un membre de la famille. Avec vous, on peut se disputer, mais on se dispute comme entre frères et sœurs. » Et alors, pour finir, il conclut « Pour comprendre la complexité de l'interdépendance des problèmes polono-juifs, posons-nous la question. Y a-t-il eu des sentiments anti-juifs et des agressions contre les Juifs en Pologne ? Oui. Y a-t-il eu des entrepreneurs juifs en Pologne qui ont ignoré ou méprisé les Polonais ? Oui. Y a-t-il eu pendant l'occupation des Juifs collaborateurs qu'on ne pourra jamais comparer aux défenseurs héroïques du ghetto ? Oui. Y a-t-il eu des moments en Pologne où la souffrance et les sacrifices des Juifs ont été passés sous silence ? Oui. Y a-t-il eu des Polonais qui ont sauvé des Juifs au prix de leur vie ? Oui. La mémoire du 50e anniversaire du début de la Seconde Guerre mondiale nous place du même côté de la barricade, du côté de l'extermination et de la mort. Les Juifs, les Gitans, les Polonais, voici des peuples que la stratégie nazie condamnait à l'anéantissement, bien que d'après des plans différents et sur une échelle différente. » Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un serment antisémite. C'est un serment qui disait « Nous sommes frères, comme on est frères, on se dispute et on a des torts réciproques. » Seulement, ce n'est pas du tout la vue juive des événements. La vue des événements par la communauté juive, c'est que les responsables sont toujours du même côté. Ce sont toujours les chrétiens, ou les non-chrétiens, mais non-juifs, qui ont tous les torts, et les juifs qui n'ont que le tort d'être des victimes. Et alors, il concluait donc son sermon en disant, ça c'est la partie qui a été reprise partout et qui s'élève, « Nous avons nos torts à l'égard du peuple juif, mais aujourd'hui on aimerait dire, chers juifs, ne nous parlez pas avec l'attitude d'une nation qui serait au-dessus des autres et ne nous imposez pas des conditions impossibles à remplir. Ne voyez-vous pas, cher peuple juif, que l'opposition religieuse carmélite nuit au sentiment de tous les Polonais et viole notre souveraineté ? Votre pouvoir, c'est les masses médias qui sont à votre disposition immédiate dans de nombreux pays. Ne les mettez pas au service de l'anticolonialisme. » Alors là, il dit des choses qui, effectivement, sont, on n'a pas le droit de dire. Enfin, parce qu'il y a des lois pour ça, bien sûr. Et donc, ça tombe très très mal, parce que lorsqu'on n'a pas tellement relevé, c'est que ce 26 août, jour du serment de Częstochowa, est le jour où Jean-Paul II publie une lettre apostolique contre l'antisémitisme. Ce qui fait que médiatiquement, la lettre que le pape pensait être la lettre de la grande réconciliation judéo-chrétienne, qui était un signe dans le règlement du conflit, etc., est complètement phagocyté médiatiquement par le sermon du cardinal Glemp, et donc passe totalement inaperçu. Finalement, personne ne la lira. Ce qui fait que le cardinal Macharski est convoqué au Vatican, il se rend immédiatement au Vatican, et on lui dit, Macharski, donc, qui a rompu les négociations le 10 août, hein, en disant qu'il n'y aurait pas de centre judéo-chrétien, et on lui dit, bon, ben maintenant, vu l'affaire de Glemp, il faut reprendre les négociations rompues le 10 août. Et Macharski est en route vers la Pologne pour annoncer ça. Non, il est même rentré en Pologne. Il va annoncer ça le 2 septembre à l'occasion d'une grande réunion interreligieuse qui est organisée à Auschwitz pour le 50e anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le moment où Macharski va annoncer que, bon, on va reprendre les négociations, qu'on va rediscuter, qu'on va reprendre en considération les arguments juifs, que le cardinal Glemp choisit de publier dans un journal romain, La Repubblica, un interview dans lequel il dit qu'il n'est pas question que les carmélites déménagent d'Auschwitz. Donc on a toutes les apparences d'un conflit ouvert entre le cardinal Glemp d'une part, le Vatican d'autre part. Parce que je crois que là, Macharski n'a été que l'homme de Jean-Paul II, et que Glemp a senti que le Vatican allait lui imposer de faire partir les carmélites et qu'il a fait du combat d'arrière-garde pour empêcher que ce déménagement se fasse. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? On a beaucoup dit que dans son esprit, il s'agit de ressusciter un parti national catholique en Pologne, etc. Mais je pense que simplement, il a trouvé légitime. On trouve extraordinaire qu'un cardinal défende les intérêts d'un monastère catholique. Je pense qu'il l'a fait pour des raisons qui ne sont pas mystérieuses. Mais alors, bon, évidemment, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que dans cette interview à La Repubblica, il dit que les négociations ont été faites par des personnes incompétentes. Alors, comme il s'agit de Decourtrai, Lustiger, etc., ça a fait un peu frémir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'incompétent, c'est incompétent au regard du droit de l'Église. C'est certain qu'elles sont incompétentes, que Lustiger est incompétent pour intervenir en Pologne. Ça n'enlève rien à ses qualités intrinsèques. Et aussi un peu contre Macharski qui a cédé et qui est actuellement sur la ligne de Jean-Paul II. Ce qui fait que donc le 3 septembre, dès le lendemain, Decourtrai, qui dans un premier temps avait essayé de justifier le serment de Chestokova, donc du 26 août, du cardinal Glimp, en disant « mais non, le cardinal Glimp n'est pas antisémite », là Decourtrai hurle avec les loups et dit que les propos du cardinal Glimp sont absolument inacceptables. Decourtrai réagit, bon, d'abord parce qu'il est lui visé directement, et puis parce qu'à ce moment-là, les médias se déchaînent alors contre le cardinal Glemm sur le thème « l'Église est antisémite », et que pour l'Église de France, c'est un véritable enjeu, dans la mesure où l'Église de France s'est souvent un peu accrochée à l'Église de Pologne comme un modèle valorisant. Dans les années, les grandes années chaudes de solidarité, pour l'Église de France, c'était très valorisant de dire « vous voyez, le catholicisme polonais, on va essayer de faire quelque chose comme ça, parce que ça, c'est vivant ». On ne les imitait pas en mettant des soutanes, mais on essayait de bénéficier de leur bonne image médiatique. Alors, disons qu'il y a eu beaucoup de messes qu'on célébrait, on a beaucoup invité des Polonais, etc. On a beaucoup montré les Polonais, parce que c'était les catholiques qui bougent encore. Et donc, ça devient dangereux à partir du moment où ils sont déconsidérés par la presse internationale. D'autant qu'évidemment, les brebis galeuses habituelles commencent à montrer les dents. Hans Küng donne des interviews. Et puis, Mgr Gaillot va à Auschwitz avec Harlem Désir. Comme d'habitude, dans ce genre de situation, les dialecticiens rentrent dans l'arène parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais chaque fois que le cardinal de Courtrai, le cardinal Lustiger prennent des positions un peu conservatrices, on l'a vu dans le film de Scorsese, les questions, bon, eh bien, on lance Gaillot. Gaillot va pour faire la contre-église. Alors on a l'impression que c'est simplement un provocateur. Non, c'est-à-dire qu'il donne l'image d'une église acceptable, d'une église moderne, d'une église qui est en Gaillot, c'est l'église populaire qui est en connexion avec son temps, contre les pauvres cardinaux complètement largués qui en restent à des aspects un petit peu traditionnels. Donc, Decourtrai, qui a senti le vent du boulet l'année précédente avec l'affaire Scorsese, avec l'affaire des préservatifs, avec toute cette espèce de guérilla anti-religieuse qui a eu lieu en France parce qu'ils avaient fait preuve d'un tout petit peu de courage de façon accidentelle, ils se disent « Ouh là là, on ne va pas repartir en guerre contre les médias, on a assez donné ». Le problème, c'est qu'au même moment, en Pologne, les évêques soutiennent Glimp. Il y a une déclaration des évêques de Pologne, parce que c'est comme l'armée chinoise quand ils entrent dans Pékin. On expliquait que les évêques, l'église polonaise allait lâcher Glimp, etc. Il y a eu des divisions internes, etc. Bon, en réalité, les évêques soutiennent Glimp. Le gouvernement, alors il y a bien quelques freelances de solidarité qui désavouent Glimp, mais enfin, le gouvernement n'ose pas trop quand même attaquer le primat, parce qu'en Pologne, le primat, c'est le vice-roi, c'est celui qui incarne la légitimité. Donc, Glimp bénéficie d'un soutien, de certains soutiens, mais alors, dans la communauté internationale, c'est Elie Wiesel se mobilise, on parle du silence de Jean-Paul II, Rocard s'émeut, on se demande vraiment de quoi il se mêle. Chamir donne des interviews en disant que c'est scandaleux. Bon, ce qui fait que le Vatican se retrouve dans une situation intenable, c'est-à-dire que la Pologne est unie autour de Glimp, et s'ils ne disent rien, eh bien, ils vont être rentrés dans le jeu de Glimp, c'est-à-dire avaliser la position dure dont Jean-Paul II ne veut pas. Jean-Paul II ne voulait pas imposer le départ du Carmel, mais il voulait que le départ du Carmel se fasse en douceur. Et c'est pourquoi ils ont trouvé la solution de faire parler Wilbrandt. Wilbrandt, c'est le grand pionnier du dialogue avec le judaïsme. Je vous ai dit qu'il était secrétaire de la commission pour l'unité des chrétiens, il s'est toujours donc occupé des juifs. Et c'était lui, il était à la synagogue avec Jean-Paul II, il est toujours derrière le fauteuil sur les photos. Et donc c'est Wilbrandt qui parle et qui fait donc un communiqué qui en fait avalise l'accord de Genève. Alors, des gens très bien intentionnés comme présents ont voulu dire, ils ont entendu des voix, ils ont cru que c'était le pape. Enfin, on fait campagne sur le thème « le pape n'a pas parlé ». Bon, c'est quand même une méthode très usée. Le pape est avec nous, mais il ne peut pas le dire. Ce sont les évêques qui sont mauvais. Je veux dire, on a tous pratiqué ça à un moment ou à un autre, et il ne faut pas se raconter des blagues entre nous, quoi. Donc le pape, si le cardinal Wilbrand, c'est une commission romaine, dans une affaire aussi sensible concernant la Pologne, publie un communiqué, c'est avec l'aval du pape. Simplement, le pape, pour ne pas froisser les sensibilités polonaises qu'elle est justement attachée, n'a pas voulu parler lui-même et a fait parler Wilbrand pour qu'on puisse dire « Ah, le pape est mal conseillé ». Et disons que pour calmer Glimp, on dit qu'on va lui donner un petit peu d'argent pour construire le centre judéo-chrétien. Alors, je terminerai avec ça parce que je suis très en retard. Quel est l'enjeu finalement de cette capitulation? Et je crois que cet enjeu est double. À court terme, je crois qu'il est quand même, cet enjeu est quand même important, c'est-à-dire que c'est quand même une capitulation de première grandeur pour l'Église. À court terme, nous sommes au moment où, bon, plus ou moins, le rideau de fer est en train de se fendiller. Donc, il y a irruption de l'Europe de l'Est en Europe, quoi qu'on pense de l'avenir de tout ça. Et donc, irruption du catholicisme polonais. Et ce catholicisme polonais, au moment où il va pouvoir circuler en Europe, si je puis dire, eh bien, il est brutalement déconsidéré. Et je ne crois pas que ça soit un hasard. C'est-à-dire que le fait qu'on ait coincé Glimp sur le thème de l'antisémitisme, je ne le crois pas indifférent. Et le cardinal Glimp est un homme à suivre, est un homme curieux. C'est-à-dire que par certains aspects, il est extrêmement dans la ligne. C'est lui qui a organisé cette manifestation interreligieuse, et non pas antireligieuse, bien que ça se recoupe, à Auschwitz, avec comme à Assise des bouddhistes, des juifs, des chrétiens, etc. Donc on peut dire qu'il est, de ce point de vue-là, dans la ligne. Mais à côté de ça, le cardinal Glimp a écrit des textes contre la liberté religieuse, contre l'État laïque, qui sont assez saisissants. Je voudrais vous citer deux choses. La première est un petit peu ambiguë, c'est son intervention au synode sur Vatican II, c'est-à-dire le synode de 1985 qui devait faire le bilan de Vatican II et qui ne l'a pas fait. Et le cardinal Glimp dit « En Pologne, l'Église a accueilli les décisions du Concile avec sérieux, joignant à la prière des fidèles l'étude approfondie des prêtres ». Bon, ça veut dire en gros qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Et il convient de rappeler l'illustre figure du défunt primat de Pologne, bon, qui n'était pas un conciliaire acharné. Mais ce qui est très intéressant, c'est que voilà l'essentiel de son intervention, le cardinal Glimp la consacre à la liberté religieuse. Et il dit, alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à des résultats extraordinaires, mais il ne la met pas en cause, il ne dit pas le décret sur la liberté religieuse est une apostasie, parce que il ne serait plus primat de Pologne. Mais il dit, le concept conciliaire de liberté religieuse se transforme en une liberté mondainement conçue et non rarement nuisible à la dignité de l'homme. Alors voilà quand même un primat de Pologne qui dit que la liberté religieuse est contraire à la dignité de l'homme. La doctrine conciliaire perd son efficacité par manque de courage des ecclésiastiques qui évitent de prêcher sur la chasteté, le mariage, le divorce, l'avortement. Disons que dans l'ensemble de ce synode de 1985 qui a été finalement un synode d'autosatisfaction sur Vatican II, c'est une déclaration qui a détonné. Et alors ce qui est encore plus curieux, c'est un texte du cardinal Glimp qui a été publié cette année dans le journal de Solidarité, et qui est daté du 16 juillet 1988, et qui est un texte qui s'appelle « Pour le respect des idéologies dans l'État et la société ». Et là, je vous le lis, je crois que c'est très intéressant. « La nation polonaise baptisée, donc complètement imprégnée par l'Église, s'est efficacement opposée à l'idéologie communiste. Cette nation a par conséquent le droit à des structures d'État qui répondent à son caractère et à ses aspirations. La revendication issue des milieux laïcs de neutraliser certaines institutions de l'État ne répond qu'à l'étape actuelle, car à l'avenir, on ne pourrait prévoir que la neutralité, donc la laïcisation, puisse répondre aux véritables intérêts de l'État. » Voilà un cardinal qui nous dit « l'État laïque ne répond pas à l'intérêt de l'État ». Il continue « On ne saurait rejeter la notion du polonais catholique. Un vrai polonais sera toujours catholique. Il retrouvera ses liens profonds avec l'Église. » Dans cette notion du polonais catholique, il n'y a qu'une seule exception, le polonais juif. La tolérance est autre chose. On peut parler de tolérance dans la culture, mais il ne faut pas la confondre avec l'Église et la religion. La liberté de conscience et de confession n'est qu'un terme utilisé par les constitutions modernes, mais la science de l'Église ne connaît pas ce terme-là. C'est extraordinaire, ça, je vous le répète. La liberté de conscience et de confession n'est qu'un terme utilisé par les constitutions modernes, mais la science de l'Église ne connaît pas ce terme-là. Ce qui veut donc dire que le Concile Vatican II n'appartient pas à la science de l'Église. On parle souvent de l'égalité de toutes les idéologies. Si parmi ces idéologies, l'on considère les confessions représentées par les églises et surtout par l'église catholique, il ne reste pas grand-chose. Ce qui reste, c'est en fait les impies et la gauche laïque. Pourquoi l'église aurait-elle à défendre leurs droits ? L'absence de foi ou l'athéisme n'est pas un état naturel de l'individu et d'autant plus de la société, car il signifie le mal. Les individus et les nations sans Dieu sont des caricatures. Aucune organisation laïque ne saurait être soutenue par l'église. Donc, je trouve ces propos dans l'Église actuelle absolument extraordinaires, et je pense que la violence de la campagne contre le cardinal Glemm s'explique de façon souterraine par ce genre de conception, c'est-à-dire que l'on a eu peur que l'Église de Pologne, au moment où, comme je l'ai dit, le rideau de fer se fendit, puisse répandre des catholicités pareilles, si je puis dire, à travers l'Europe. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on lit dans beaucoup de journaux, notamment il y a un éditorial de Jean Daniel qui est consacré à ça, qui est consacré à dire « l'Église de France a fait son aggiornamento, maintenant il faudrait que l'Église de Pologne la fasse aussi ». Et je vous cite encore Marie Calter. Marie Calter, c'est un peintre juif qui est le compère de Bernard-Henri Lévy, qui est l'un des parrains de SOS Racisme, donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans ce milieu. Et le Figaro lui demande, c'est très récemment, « Le cardinal Jean-Marie Lustiger se réjouissait il y a quelques jours dans les colonnes du Figaro du rôle joué par l'Église dans les mouvements de libération dans les pays communistes. Qu'en pensez-vous » Réponse, « Je comprends la satisfaction du cardinal Lustiger, mais il ne peut ignorer que l'histoire des Églises de l'Est, au moins depuis la dernière guerre, n'est pas celle de l'Église d'Occident. Elles n'ont connu ni le travail de réflexion qui a pris place ici au lendemain du nazisme, ni Vatican II, ni Jean XXIII. Ce sont des églises archaïques, xénophobes, souvent racistes et antisémites. » Donc je crois qu'il y a là, dans le cadre de la campagne contre Glemm, la volonté d'éviter une contamination traditionnelle de l'Église. Je ne vous dis pas que Glemm soit entièrement traditionaliste, je dis qu'il a gardé des éléments de doctrine traditionnelle qui font peur. Pas à nous. Et le plus grave, alors ça c'est donc ce que je pense être l'enjeu à court terme de la défaite de l'Église dans cette affaire, le plus grave est évidemment le long terme, et là... il est évidemment que l'on a admis le principe selon lequel il y avait un endroit de la terre où l'on n'avait pas à honorer Dieu et où l'Église ne pouvait imposer, et non seulement imposer, mais ne pouvait se permettre de prier publiquement Dieu. C'est-à-dire qu'il y a maintenant à la surface de la terre une espèce de terra nullius, une espèce un espace qui échappe à la juridiction de Dieu, qui échappe à la possibilité de faire une prière. Et je crois que le fait que l'Église reconnaisse cette exigence est un blasphème public de la plus grande gravité. C'est l'idée que cette terre ne doit pas être sanctifiée par des prières, parce que le ciel doit rester vide au-dessus. C'est l'idée de la punition de Dieu qui, finalement, a été avalisée par l'Église, et donc l'idée que Dieu a été injuste. Puisque pourquoi est-ce qu'on ne peut pas honorer Dieu à cet endroit-là ? Parce que c'est l'endroit où la justice de Dieu ne s'est pas manifestée. Donc je pense qu'il s'agit là d'un blasphème qui débouche sur la contestation de la royauté universelle du Christ. Et je terminerai simplement en paraphrasant Galilée pour dire « Et pourtant, il faut qu'il règne ». Voilà.